Service après-vente de la F1, j'écoute.
Oui, Yannick, c'est Christophe.
Christophe ?
Bah oui, Christophe. C'est au sujet de la dernière émission du SAV.
Ah, à propos de la chanson ?
Oui, voilà, c'est ça.
Écoutez, je sais, on n'aurait pas dû reprendre votre chanson, mais...
Mais de quoi tu parles ?
Bah, de votre chanson. Bon, c'est moins bien chanté que vous, mais vous savez ce que c'est, quand on est inspiré, il faut que ça sorte.
Non, mais je voulais juste te dire que j'avais bien aimé. Vous avez bien failli me tuer avec Enzo.
Ah, vous avez écouté l'émission ?
Bah, comme depuis le début de saison.
Vous êtes fan, alors ? Je pourrais vous demander un petit service, sans trop exagérer.
Lequel ?
Me chanter les mots bleus. J'adore cette chanson.
Mais ça va pas ? Allez, on t'attend pour l'enregistrement, là.
Mais attendez, Christophe ! Christophe ! Je vais quand même pas crier votre prénom. Je vais pas non plus pleurer. C'est Christophe ! Allô ? Allô ? Allô ? Bon bah... Bon, tant pis, hein. C'est pas grave.
Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue pour le service après-vente de la F1 consacré au Grand Prix de Belgique. Parce que, comme l'aurait dit Neil Armstrong lui-même...
F1, one step for man, one giant leap for mankind.
Cette émission marque donc un tournant historique dans l'histoire du monde. Enfin, soyons modestes, de la F1. Quoi ? De la F1 en France seulement ?
Non.
Quoi ? Juste pour quelques auditeurs seulement ? Bon, c'est pas grave, ça reste quand même un grand jour historique, puisque le service après-vente de la F1 a le plaisir de fêter son premier anniversaire. Et pour fêter cet anniversaire, la Formule 1 nous a fait l'un des plus beaux cadeaux possibles, puisqu'elle nous a réservé un vrai grand prix de Formule 1 passionnant sur un vrai circuit de Formule 1 passionnant. Mais avant tout, nous voudrions avoir une pensée pour une partie de nos auditeurs qui ont, il faut le dire, subi nos deux dernières émissions ponctuées de Choumi par-ci, Choumi par-là. Alors promis, on arrête avec Choumi, c'est promis juré, on arrête, mais vous allez vous bouffer du Kimi Raikkonen à toutes les sauces, et ça, je sais que ça va faire plaisir à certains d'entre vous. Le SAV de la F1 reviendra bien évidemment sur les moments forts de ce Grand Prix de Formule 1, mais aussi sur l'actualité chaude de ces 8 derniers jours, le tout comme à notre habitude dans la bonne humeur. Petite nouveauté cette fois-ci à titre exceptionnel, vous pourrez participer à l'émission via des petits messages audio et écrits que nous avons reçus, et oui, nous avons eu de courageux participants. Alors, sans plus attendre, parce qu'une victoire de la Scuderia, ça se fête, Fratelli d'Italia, l'Italia, c'est des stars. Et surtout, quand on est plus habitué, retrouvons nos deux intervenants de Chic et de Choc. Bonjour Shinji, bonjour Enzo.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Qu'est-ce qui vous fait rire?
Ta sublime voix.
Ah, voilà. Vous avez vu, hein, quand je chante sans mélodie, tout d'un coup, ça devient magique.
Personne n'a une chanson à faire cette semaine, personne n'a de revendication à faire.
Pas eu le temps.
Pas eu le temps.
Non.
Mais c'est pas l'envie qui nous en a piqué.
Donc, déjà, on peut dire sur l'émission de la semaine dernière, vous remerciez tout.
Dur, très dur,
mais vous remerciez tous de votre écoute et de vos messages qui ont afflué un peu pendant la semaine. On a reçu beaucoup de messages, beaucoup de soutien, etc.
3.
Non, 5. Oh.
Non, 3000. 3000, est-ce qu'il passe à couper le micro? 3000.
Non, 5000, hein, moi c'est ce que je disais, ça a coupé aussi.
Donc on commence cette émission un peu spéciale qui inclura, donc je l'ai dit en introduction, on a eu quelques contributions assez sympas, vous allez voir. Mais on commence, comme d'habitude, par le chiffre de Shinji. Et attention, l'une des premières surprises, c'est qu'il y a un petit jingle.
Oh.
Oh.
Les chiffres et les lettres.
Le service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente le chiffre inutile de Shinji. Un chiffre inutile, mais qui peut vous éviter d'avoir l'air con en soirée.
Le chiffre de la semaine est le chiffre numéro 16. Et
c'est le
je vais me faire une faveur. C'est le sens, c'est 16e.
16e.
Oh, bah facile.
La place de Badouer.
Non.
Est-ce que ça a un rapport avec le Grand Prix?
Bah non, avec la Belgique.
Bah non.
Avec la Belgique.
Bah oui.
Mais ça n'a aucun rapport avec la F1. Ok, d'accord, donc ça n'a aucun rapport avec la F1. Est-ce que c'est un classement, c'est la position de la Belgique dans un classement?
Exact.
Le 16e pays producteur de patates?
C'est peut-être ça, mais ce n'est pas notre cas ce soir. Il m'énerve quand il dit ça, il m'énerve.
C'est le 16e chiffre complètement inutile de Shinji?
Non, pas encore.
Est-ce que ça a un rapport avec l'art?
Non.
Avec le sport?
Non plus.
Avec les habitants, les Belges?
Ça a un lien.
Est-ce que c'est une prestation que les habitants de la Belgique font et qui, dans un classement mondial, se classent 16e?
Non, c'est pas quelque chose que font les Belges.
J'ai une idée. C'est actuellement le 16e gouvernement dans l'année en Belgique.
C'est vrai que c'est plus. Pas très stable en Belgique en ce moment, mais c'est pas ça.
Yep.
Je renonce.
Est-ce que l'an prochain, ce sera toujours 16?
A priori, oui, ça ne devrait pas beaucoup changer.
Bon, allez, on donne notre langue au choix.
Ouais, voilà.
Très bien. Eh bien, selon le CEIA World Factbook millésime 2005, la Belgique est le 16e pays le plus dense au monde. Donc, on vous rappelle que la densité, c'est le rapport entre la population et une surface donnée. Et donc, la Belgique, il y a 300... Il y a 346 habitants.
On s'en fout.
Mais on sait qu'on s'en fout.
Moi j'aimais mieux les pandas.
Alors quelques chiffres en comparaison.
Non,
à Monaco, bon. La densité est de 16 235 habitants au kilomètre carré. Aux Pays-Bas, qui est le pays, on va dire, le plus dense de l'Union Européenne, c'est 395. La densité de l'Union Européenne, c'est 113 habitants au kilomètre carré. La France, c'est 112 habitants au kilomètre carré. La Mongolie, alors par contre, c'est les derniers, la Mongolie. La Mongolie, il y a 1,8 habitants au kilomètre carré.
Il y a un gars, il manque une jambe.
Voilà. Et sur la planète Terre, la densité moyenne est de 45 habitants au kilomètre carré.
Ouais, mais est-ce que tu comptes la mer? Parce que les pêcheurs...
Alors, je pense que c'est juste les terres immergées, car je crois qu'avec la mer, la densité terrestre est seulement de 18. En termes de population stricte, elle se classe 76e.
Ah, très intéressant. Voilà.
Et pour information, la ville la plus dense au monde, c'est même pas Monaco.
Eh, je sais. Mais... Hong Kong. Bon, tant pis.
Malé, la capitale des Maldives, 60 000 habitants au kilomètre carré.
Ouais, la ville a fait 1 km carré, genre.
Ouais, voilà, c'est ça.
D'accord.
Alors, la grosse question qui tue à ce Spa-Francorchamps, c'est quoi la densité?
Un petit instant, s'il vous plaît.
C'est deux pilotes par paddock. Et moins un pour le stand Ferrari seulement.
La ville de Spa, la densité est de 265 habitants au kilomètre carré.
Non, mais qu'il y ait des gens... qui ait le temps de calculer ça et de mettre ça à jour sur Internet. Mais qu'après, il y a des gens qui lisent ça et qui s'y intéressent.
Et qui en fassent des rubriques dans une émission.
Non, là, je vois pas, non.
Donc,
non, merci, pour une fois... Merci, Shinji.
Une fois n'est pas coutume, je vais proposer un chiffre.
Oui. Ouais.
Parce que je me suis fait taper sur les doigts de la part d'un ami parce qu'on a escamoté le chiffre de 5 de la semaine dernière d'Enzo, qui disait 5 vainqueurs en 5 grands prix.
Et ben là, ça sera 6.
Bah, c'est 6.
Donc, dans la catégorie des chiffres, nous avons d'autres chiffres, messieurs.
Oh.
Nous avons une proposition d'Iceman Air, qui est un de nos auditeurs, qui nous propose le chiffre 5.
Alors, d'abord, est-ce que je peux faire juste un aparté?
Une aparté
d'ailleurs.
Aparte.
À propos de sur Iceman Air, je veux simplement lui dire que moi aussi j'adore Kimi. Mais il y a juste que toute l'année dernière et depuis ce début d'année, j'ai juste envie de lui foutre des coups de pied au cul. Comment?
C'est qui après le Grand Prix qui m'a dit ah oui je m'excuse pour le reste de l'année hein. Parce que quand même, hein, il mérite bien sa place chez Ferrari. Non, mais j'ai
toujours été un fan de Kimi, sauf que ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi qu'il mérite des coups de pied au cul, c'est tout. Et
j'ai pas envie de... En même temps, faut lui offrir des bonnes voitures, hein.
Oh, attends, non, je suis pas d'accord.
Non,
des fois, il est complètement...
Je t'aime bien, Shinji, mais tu ne tapes pas sur Ferrari.
Non, non, mais c'est pas une question de voiture. J'ai simplement l'impression qu'à partir du moment où il sait qu'il va plus rien pouvoir faire, eh ben, il se laisse complètement aller. Et voilà, contrairement à Fernando Alonso, où à partir du moment où son coéquipier s'est mis dans le mur et qu'il a une victoire possible, il fonce. Non, je déconne. On coupera ça. Non, mais à partir du moment où ou du moins même à aucun moment, je veux dire, il baisse les bras et il va toujours à fond. Et Kimi, j'ai un peu l'impression qu'il baisse ses bras. C'est tout. C'est juste pour ça que cette année, il m'a franchement un peu énervé. Et Shinji, tu pourras pas dire le contraire. Toi aussi, ça t'énervait.
Je sais. Oui.
Mais,
non,
non.
Je suis un grand fan de Kimi, moi aussi. Et je voulais juste le dire à Iceman Air. Voilà, c'est tout. Cette précision est en fait, nous t'écoutons pour le chiffre 5 qu'il nous propose.
Donc voilà, le chiffre 5.
Pour Spa.
C'est lié à la Belgique.
C'est lié à la Belgique et c'est même lié au Grand Prix de Spa.
Ah bah, c'est le nombre de Grand Prix qu'il aurait pu gagner.
Ah bah voilà, bien. Oh, alors là,
bah oui.
Alors là, belle réponse à Iceman. C'est le record de victoires consécutives dans un même Grand Prix. C'était Senna, 5, je sais pas, il m'a pas indiqué quel grand prix, j'avoue, j'ai pas cherché.
Monaco.
Sans doute. Et, je te fais confiance, Enzo. Et, il s'avère que, sans effectivement, je reprends les mots d'Iceman, hein.
Oui.
Sans la tricherie d'Hamilton de 2008, qui a coûté la victoire à Raikkonen, celui-ci aurait donc égalé ce record de 5 victoires consécutives dans le même grand prix. Voilà. Nous laissons ce jugement à Iceman.
Complètement.
Voilà. Même si nous partageons un peu.
Même s'il a pas gagné, ça note quand même une formidable régularité, quoi. Parce que depuis 2004.
Et alors, je confirme que c'est bien de 89 à 93 que Senna a gagné 5 fois à Monaco de suite.
Alors, ensuite, nous avons un autre chiffre. Parce que nos auditeurs sont en forme. Ouais. Et là, c'est pas seulement un chiffre, c'est toute une présentation. Je vous propose maintenant d'écouter ce que nous a envoyé Jérôme, alias Globen, sur le blog.
Ah, c'est donc lui.
Allô? Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Merci de me souhaiter la bienvenue. C'est Jérôme. Voilà, le fameux qui a gagné plusieurs concours
c'est
de position.
C'est moi, Jérôme.
Alors, je voulais participer donc à ce numéro spécial premier anniversaire. Donc, je vais déjà me présenter un peu par rapport à votre SAV que je suis depuis que vous avez changé de site.
Oula.
Donc, depuis...
Pas longtemps.
Le mois d'avril, Monaco.
Depuis le SAV...
Monaco.
Oui, voilà, c'est ça, Yannick.
Mais de rien.
Tout à fait. Et bah oui, bah depuis j'ai accroché, hein, j'ai suivi complètement. Donc sinon par rapport à la F1, bah je suis fan de Ferrari.
Yes.
Donc les quatre pilotes, hein, Massa, Raikkonen, Alonso,
oui,
et comment ils s'appellent,
Schumacher. Oh non, arrête, ils vont changer, ils vont chanter.
Non, je rigole, hein. Je l'ai pas oublié.
T'en va pas.
Voilà, sinon rien de spécial. Donc, j'ai un chiffre inutile à vous soumettre.
Encore ?
Parce que, pourquoi il y aurait que Shinji, après tout ?
C'est vrai, pourquoi il y aurait que moi ?
Ce chiffre, c'est 143. Voilà. Donc, j'ai donné la réponse à Yannick, je le laisse animer cette séquence. On verra si vous trouvez la réponse et on se verra plus tard pour une autre séquence audio.
Alors, le chiffre, c'est 143, donc qu'est-ce que vous proposez ?
Eh ben, je propose la somme des âges des deux premières lignes.
Oh non, je pense pas.
Non, ça serait pas lié à physique et là, non.
Non, ça a aucun rapport avec la Formule 1.
Ah bon?
Aucun. Donc
c'est
la Belgique.
Utile.
c'est aussi utile que le chiffre inutile de Gigi, j'avoue.
Donc c'est
mais
la densité
un lien
de la Belgique multipliée par la racine cubique.
Mais bien évidemment, ça a un lien avec la Belgique.
Tu nous dis l'unité?
L'unité, c'est... Est-ce qu'on lui dit l'unité, Jérôme? Ouais, ok, d'accord, on va lui dire l'unité. C'est des kilomètres. C'est 143 kilomètres.
La distance entre le nord et le sud en Belgique?
Non, pas entre le nord
et le sud. Est-ouest?
Pas est-ouest.
Diagonale?
Pas en diagonale, c'est à 23 pouces la Belgique.
Le nombre de kilomètres de côte?
Non. C'est une distance entre... entre deux points.
La frontière franco-belge?
Non, pas la frontière franco-belge.
Entre Spa et Wabichumi.
Non.
Entre Spa et Nürburgring?
Non. Ah, je pensais que c'était super simple en fait, mais non, il rame.
Entre la France et entre la France et Spa.
Non. Ah, vous allez chercher compliqué. Hein.
Est-ce que ben 143
kilomètres. C'est une kilomètre distance entre deux points.
Entre deux points.
Entre Liège et Bruxelles.
Pas entre Liège et Bruxelles.
Entre Spa et Bruxelles.
Entre Spa et Bruxelles, selon Google Maps, il y a 143 kilomètres. Bravo Shinji.
Ah mais
c'est le patron du chiffre inutile là.
Ah oui, c'est tout à fait.
Voilà, il y avait que Shinji qui pouvait comprendre ce chiffre.
Avis d'expert, en effet, c'est un beau chiffre inutile.
Eh ben, on va passer à autre chose.
Par exemple.
Comme on vous l'a annoncé en début d'émission, c'est l'anniversaire du service après-vente de la Formule 1. On a...
Tu nous as fait un best-of.
Oh, non, alors j'ai pas le temps.
Oh, dommage.
Mais à la fin de l'année, il y aura un best-of.
De tous les trucs que t'as coupé.
Non, j'ai pas gardé les fichiers, c'est ça
le
pire.
C'est dommage.
Oh, dommage.
Ça prend trop de place qu'on enregistre. On enregistre trop longtemps et ça prend trop de place.
Oui, mais tu devrais garder les bons trucs, quoi.
Ouais, mais non, mais à chaque fois... Alors déjà, je mets une journée, les mecs, pour monter.
Ouais, mais t'es lent, on n'y peut rien.
Oh non, eh, non, oula, non, non. Oula, attention, tu m'énerves. Là. Attention, hein. Je vais te couper toutes tes bonnes blagues, tu vas plus rien comprendre dans l'émission.
Ah, il y en a quand même.
Deux. Sur deux heures d'enregistrement, c'est bien. Donc, pour commencer avec cet anniversaire, on va répondre à quelques questions que nous ont posées les auditeurs.
On parle de Spa un moment ou pas ?
Oui, on parle de
Spa. Mais oui, on parlera de Spa.
T'inquiète. Donc, pour commencer avec cette petite rubrique exceptionnelle spéciale anniversaire où on répond aux questions de nos auditeurs, nos 5 auditeurs qui ont participé. Merci à eux. Nous allons commencer avec une introduction préparée par Stéphane.
Un petit message pour souhaiter un joyeux anniversaire au SAV de la F1 et vous remercier pour tout le travail que vous faites pour nous. Je souhaite une longue vie au SAV. Puissiez-vous nous accompagner encore de longues années. Et je tenais à remercier Enzo de m'avoir un peu égratigné la semaine passée, car je suis Stéphane, le supporter de Williams et de Robert Kubica. Je tenais à lui signaler que je ne suis pas belge et que je lui en veux absolument pas.
Je suis colère, les enfants, je suis colère!
Je sais apprécier l'humour et je m'en prendrai pas à un fan de Jean Lizy.
Ah, Jean, on n'attendait plus que toi. Alors, avec le team, on a étudié bien les circuits. Pour la stratégie, c'est mieux que tu privilèges les appuis aérodynamiques que la performance, non?
Ben, mais oui, la stratégie, moi, c'est facile, hein. À fond, à fond, à fond.
Si, c'est bien, c'est fougueux. Mais c'est mieux si tu arrives à la fin de la course, hein. Comment tu sens les circuits?
À fond, à fond, à fond.
C'est-à-dire, c'est un circuit que c'est difficile pour doubler, que tu dois réfléchir. Ce que je veux dire, c'est, si tu es derrière un pilote qui va moins vite que toi...
Je le double à fond.
Si, oui. Mais peut-être il n'y a pas la place.
S'il n'y a pas la place, je coupe par le gravier.
Si, mais c'est pas une stratégie, ça.
Ah, si, c'est la mienne.
J'espère sans rancune, Enzo. Mais pour me faire pardonner, je souhaitais vous faire un petit présent. Même si je pense que ce son doit traîner sur pas mal de disques durs, je voulais vous faire écouter un petit son qui manque au bord des circuits et dont Enzo semblait un petit peu nostalgique il y a quelques semaines. Donc, régalez-vous et encore longue vie au SAV et merci encore.
J'ai cru reconnaître Badoer, non, au bruit où le moteur hurlait, non?
Oh non, Badoer, il pousse pas autant la voiture.
Non.
Non, si je me trompe pas, ça doit être, ça doit être Shumi, ça, non?
Je pense,
ah, sûrement.
Oui.
Ça, c'est un V10, non?
V10. Shumi a jamais conduit de V12.
Un V14, alors.
C'est vrai, ça, c'est une bonne remarque, ça. En F1, il a commencé sur, il avait V8.
Il n'y a pas eu les V12 à un moment donné.
Non, après il a eu le Renault chez Benetton, c'était un V10 aussi. Un V10, après Ferrari, oui. Dès qu'il est arrivé en 96, Ferrari c'était la première année où il faisait un V10.
De toute façon, après
il n'a jamais de V12. Et voilà. Bon, on a appris quelque chose.
Donc en tout cas, merci Stéphane.
Merci.
Sympa, ça vous fait plaisir d'entendre les bignoles.
Ah voilà.
À fond, à fond, à fond. Et à la stratégie, si j'entends les graviers à droite, je tourne à gauche. Si j'entends les graviers à gauche, je tourne à droite. Non mais je les connais moi aussi.
Mais apparemment lui aussi il les connaît bien, il a une belle collection. Donc
le pire, je voudrais juste te dire un truc sur les guignols et sur allez-y. Il est apparu chez les guignols en 96. Sa première année chez Benetton. Tout ça parce que le premier Grand Prix qui était en Australie, il est tombé en panne d'essence parce qu'il n'avait pas vu les panneaux de son écurie qui lui disaient de rentrer au stand. Donc, non, mais c'est véridique. Donc, ils s'en sont pris à lui comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, j'ai dit une connerie. Non, c'est 96, oui, c'est bien ça. Et en 96, ça a été quand même le pilote qui a parcouru le plus de kilomètres en course, donc qui a été le plus régulier. Donc, c'était complètement faux par rapport à l'image de l'Aignol.
On pourrait être régulier à la dernière place, c'est pas non plus,
Il a pas été.
Oh, quand même pas non plus.
Non, mais c'est pas non plus le nombre de kilomètres qui compte, les mecs. Non, sérieux.
Je suis d'accord, mais ça prouve quand même qu'il sortait pas autant que pouvait le dire l'Aignol, quoi.
Ça, c'est vrai.
Mais bon, voilà, en tout cas, merci pour le petit cadeau, quoi. Et de toute manière, Kubica, lui, il risque pas d'être au Guignol parce qu'il faut commencer par être connu pour y être.
Alors on te fait un joli cadeau comme ça et tu tapes. Non, mais... c'est pas sympa. Le pire c'est que je vais être obligé de le laisser quoi, même pour.
Bah bien sûr. J'espère bien.
Donc la suite de nos questions au SAV, donc une question de Iceman Air que je vais vous lire. Tout d'abord, je vous souhaite un très bon anniversaire et je ne peux m'empêcher d'esquisser un sourire en repensant aux premières émissions faites par Dino où celui-ci a dû se sentir très seul.
C'est vrai.
Effectivement, il faut rappeler qu'au départ, le SAV, c'était le Dars Autocritique qui était publié sur mon blog et parce que j'étais légèrement feignant et j'avais pas envie d'écrire tout le résumé du week-end.
Tu parlais tout seul quand même 20 minutes. Hein.
Voilà, 20 minutes. Je crois que la première émission doit faire 20 minutes et la deuxième doit faire une demi-heure. Je les ai réécoutées il y a pas longtemps et je me rends compte que quand je parle tout seul, je parle de façon snob. Et je suis content d'être passé à 2 puis à 3 parce que voilà. Il rajoute, mais il faut toutefois reconnaître son mérite et saluer son obstination. Merci.
Oui.
Grâce à laquelle nous connaissons cette émission aujourd'hui. J'espère pouvoir vous souhaiter encore de nombreux anniversaires.
Merci Iceman.
Voilà, ça fait très plaisir. Voilà.
Je pleure, ça y est. Surtout de la part d'un fan de Kimi que nous adorons tous ici.
Ouais.
Mais c'est pas du tout ironique.
Et je retourne ma veste toujours
pas du tout.
Mon côté.
Pas du tout.
Ensuite, autre question. Alors, question d'un nouvel auditeur. Enfin, en tout cas, je le découvre. Il s'appelle Jimmy.
Oui, bonjour Jimmy.
Et qui se présente, donc je vous lis pareil, sa présentation et puis ses commentaires ensuite. Moi c'est Jimmy, j'habite près de Marseille et j'ai 30 ans. Je sais, vous devez me trouver vieux par rapport à vous, mais au moins ça prouve que votre mission intéresse tout le monde. Donc on va déjà dire à Jimmy que moi j'ai 26 ans,
Jimmy, voilà.
26 ans et que Enzo en a 34.
J'en ai même que 25, hein.
J'en ai 25. Oh,
toi aussi, t'en as que 25.
J'arrête pas en ce moment de me donner 26 ans. C'est incroyable.
Enzo, tu nous dis ton âge?
Eh ben, 25 aussi. Non, j'en ai 10 de plus.
Non.
J'en ai 10 de plus et 36 le 16 octobre. Si vous voulez m'envoyer des cadeaux, n'hésitez pas.
Voilà. On fait une émission avec un vieux, on se croirait sur RT.
Ouais, oh, arrête.
Donc...
Bon, moi je connais la F1 moi.
Oh, ça sent mauvais pour la suite ça.
Eh oui.
Donc, mais il nous précise qu'il n'est pas grabataire non plus quand même, Jimmy.
Bah 30 ans non.
Bon voilà. Alors il continue en disant, j'ai découvert le SAV de la F1 grâce au site d'Enzo.
Yes.
J'en profite d'ailleurs pour lui dire que j'adore ce qu'il fait et même si je laisse peu de commentaires, j'en ai fait un récemment mais je crois que c'était le premier, je trouve que ses dessins sont vraiment toujours très judicieux, plein de finesse et avec un humour décalé, mais toujours juste, sans tomber dans le vulgaire et pas, il a mis entre parenthèses, trop partisan.
Pas trop.
Pas trop.
Du tout, même du tout.
Bon, j'arrête de trop le complimenter parce que sinon vous allez croire que c'est lui qui m'a demandé de vous écrire. Alors Enzo, tu lui payes combien, Jimmy?
Cher.
Parce D'accord. que on sait que tu votes deux fois à chaque sondage, mais peut-être que là tu nous inventes des auditeurs.
Eh ben peut-être.
Donc, il nous précise aussi dans son mail que il a écouté, il écoute pas depuis longtemps l'émission, mais qu'il a écouté le dernier numéro. Qui est, semble-t-il, parti en vrille, mais que c'était sympa. Mais Jimmy, ce dernier numéro n'est pas du tout parti en vrille, tout était prévu.
Tout était prévu.
Enfin, alors, on va expliquer. Pour Shinji, tout est parti en vrille.
Ah oui, oui. Faut savoir que moi, j'étais pas du tout au courant. C'est-à-dire que je savais juste qu'il y aurait des surprises.
On l'a piégé, en fait. Et donc, pour Enzo, c'est à moitié parti en vrille quand il lui a fait sa chanson.
Mais c'était quand même une surprise parce que Yannick connaissait pas ma chanson et inversement.
Voilà. Donc moi, c'est légèrement parti en vrille parce que je savais déjà tout ce qui allait se passer dans l'émission, même si je n'étais pas au courant du contenu de la chanson d'Enzo.
Voilà.
Donc, voilà. La vraie mission qui est partie en vrille, c'est le Grand Prix de Hongrie.
Ah, pourquoi? Oui.
Oh, bah, il y a eu Choumi. On a eu plein d'actualités et du Choumi.
C'est pas faux.
Donc, autre question, cette fois-ci audio, une nouvelle intervention de Jérôme.
Oui, c'est encore Jérôme. Alors, j'avais deux questions, trois questions même à vous poser.
Oh non, pas trois.
Alors,
t'as dit deux.
La première, c'est comment vous est venue l'idée de créer le SAV, quoi, de partir une conversation d'amis à une émission podcastée. Ma deuxième question, c'est comment avez-vous trouvé vos pseudos? Je me suis toujours demandé ça, je me demande ça pour tous les gens que je croise sur Internet. Et enfin, dernière question, plus technique, c'est quel logiciel de montage utilises-tu, Yannick, pour monter ce SAV?
Il va être surpris. Voilà.
Eh ben, une paire de ciseaux, il prend la bande et il recoupe tout ça. Non. Il recolle tout, il enregistre avec son magnétoscope, son magnétophone à cassette. Et voilà, et bon.
Bon, je peux déjà répondre à la dernière question. Pour le montage, bah, j'utilise ce que la plupart d'entre vous avez utilisé pour faire vos messages, c'est-à-dire Audacity, qui demande une certaine dose de patience quand on a à monter. Faut savoir que quand on tourne une émission, là, les deux dernières émissions, il y avait environ 3h40 d'enregistrement. Et qu'après, faut réduire tout ça à environ 2h.
C'est pour ça qu'on coupe mon chiffre, par exemple, de 5.
Voilà. voilà, c'est comme ça qu'on vexe des égos, mais sinon, non, tout est fait avec Audacity. Si jamais vous connaissez un meilleur logiciel de montage son, il n'y a pas de problème. Mais l'inconvénient, c'est comme toujours, c'est comme pour les logiciels de montage vidéo, bah, quand on veut passer dans la gamme professionnelle, ça coûte horriblement cher. Et voilà, on reste des amateurs et on a des moyens amateurs et comme on veut pas non plus faire de la pub sur le site ou vous imposer des pubs, etc. On reste 100% gratuit. Ça prend beaucoup de temps. Hein. Moi, généralement, pour une heure d'enregistrement, j'ai environ 2 heures de montage. Donc quand on a une émission de 4 heures, bah il y a facilement 8 heures de montage.
Ouais, faut vraiment saluer ton boulot parce que c'est vraiment super bien monté quand on entend le résultat final.
Ah merci.
Non mais c'est vrai.
Non, c'est vrai que tout d'un coup les gens pensent que c'est super bien fait, etc. Mais non, mais faut. On vous fera écouter un jour l'émission.
Ah non, il faut savoir qu'il y a beaucoup de déchets, quoi.
Ouais, ouais. D'ailleurs, beaucoup chez Enzo.
Il y a des blagues qu'on répète 3 fois pour que les autres rigolent au bon moment et tout.
Voilà. Il y a des comparaisons qu'on fait. Je me rappelle d'une comparaison que j'avais faite.
Ah, c'était le fameux. Comment c'était?
Je me rappelle plus.
Le coup de l'arbalète, non.
Le coup de.
Non, c'est des couteaux ou je sais pas quoi, non.
Les pyromanes, c'est pas le coup des pyromanes?
Je sais pas.
C'est un
tir à l'arc. Non, il y avait pas un truc comme ça. Bref, c'était nul, quoi.
Oui, 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 c'était merde.
Oh, il a également pas mal coupé sur son fameux podium à Monaco.
Oui, j'avoue.
C'est vrai.
J'avoue.
Des histoires de beaux-arts aussi.
Ah non, faut qu'on raconte, sérieux.
Non.
Le pire, c'est que c'est vachement élogieux pour toi.
Ah non, mais bon, on passe. Allez, c'est bon. Et donc, la première
question. Attends,
il
y a d'autres questions.
Donc,
les pseudos.
Les pseudos, oui.
Bah, Yannick, c'est son prénom, hein, c'est pas
voilà, c'est son prénom. Mais il y a.
Yannick, c'est mon prénom. Il y a aussi Darth Vaderist ou Darth, ça dépend. Ça, c'est mon pseudo historique que j'ai depuis que je suis adolescent, parce que je suis fan de Dark Vador. Et il y a Dino, que j'ai commencé à arborer en travaillant avec Enzo sur enzof1.com. T'as vu, j'ai cité ton site. Hein.
Ouais, très bien.
Et j'ai pas mis de W devant.
Et t'as pas encore dit FR Central, donc t'as dit NOF1.
Merci de citer FR Central, ça va leur faire plaisir. Sinon Dino, bah ça vient du fait de travailler avec Enzo, Dino étant le fils d'Enzo Ferrari.
Il était ingénieur, et il a créé des moteurs V6 chez la Scuderia, et il y a toute une partie de toute une série de voitures qui sont appelées Dino avec leur propre logo. Il y a même pas le, il y a même pas le,
ouais,
le,
voilà,
c'est pas le cabré, hein, devant. Ah, c'est, ouais, le, c'est vraiment le logo Dino. Mmh. Et il y a notamment la Dino 246 qui est une de mes Ferrari préférées. Si vous allez voir, chercher une photo sur internet, elle est magnifique. Bon, c'est une Dino, hein, c'est pas vraiment une Ferrari. Et il est mort aux alentours de 30 ans, fais gaffe.
Oui, il est mort jeune, oui.
Il est mort très très jeune.
Et puis on sait que ça a beaucoup compté dans la suite de la carrière de...
Ça a énormément compté dans sa vie, c'était son fils préféré. Il avait un autre fils illégitime qui est Pierluigi, il me semble, hein, qui est au conseil d'administration de Ferrari maintenant. Mais il a mis énormément de temps avant de le reconnaître, plus des dizaines d'années, quoi. C'est peu de temps avant sa mort qu'il l'a reconnu, en fait. Voilà.
Pour nous, ça s'est imposé parce que bon, faut quand même dire, c'est que assez rapidement, quand on a commencé à discuter avec Enzo, on s'est très bien entendu. Il y a eu une complicité qui a bien fonctionné, et donc on s'est dit effectivement que Dino, ça faisait un bon deuxième pseudonyme de
fils spirituel.
Voilà.
Voilà.
Ensuite.
Donc moi, peut-être, ils veulent peut-être savoir.
Bah vas-y. Oui, parce que d'ailleurs, Iceman Air nous a demandé si ça venait de Shinji Nakano.
Alors. Ça n'est pas Shinji Nakano, mais d'une certaine façon, il y a un lien, qui est le pays.
Le Japon.
Qui est le Japon, parce que c'est un prénom japonais. Faut savoir que, vous savez qu'Enzo n'est pas fan que de F1, hein. J'en dis pas plus. Mais sachez que, je suis aussi un grand amateur de manga et d'anime. Et donc, ce pseudonyme vient du personnage de Shinji Ikari, qui est le personnage principal de l'anime Evangelion. Voilà. Donc c'est un pseudonyme.
Evangeli?
Non, oh non, pitié, s'il te plaît.
Ah non, arrête. Tu vas lui briser toute son adolescence et toute sa jeunesse en disant ça.
Ta mère! Plus ça. Hein. Et donc ça fait une bonne dizaine d'années que j'utilise ce pseudonyme. Mes amis m'appellent Shinji, même en dehors du net, dans la vie courante. Oui.
D'ailleurs, moi je t'appelle Shinji.
Voilà.
Et d'ailleurs, je crois qu'Enzo ne connaît pas ton prénom.
Si, c'est Christophe, et non pas Christophe qui chantait Aline. Hein.
Ah, merci de préciser, comme ça il y a des auditeurs qui vont comprendre.
Ah, mon vrai prénom, c'est Christophe. Voilà.
Je me rappelle, et il s'habille toujours en noir.
C'est vrai.
Bon, c'est possible. Oui.
Alors ça, c'est l'info, c'est comme ça que je t'ai connu, Shinji. Mm-hmm. Puisque la première fois,
oui.
Je t'ai fait un dessin, à la demande de Yannick, et il m'a dit, fais un casque noir. Juste avec Shinji dessus, marqué, parce qu'il s'habille toujours en noir.
Ouais, alors ça, c'est pas... Attention, hein, je...
Non, il met aussi du bleu.
Qui se balade en noir toute la journée. Hein.
Ah, bah t'as quand même des semelles compensées et puis du mascara sur les pensiles.
T'es un peu gothique, quoi. Tu peux le dire.
C'est pas du tout.
Un peu, beaucoup. Hein.
C'est juste un manteau noir, c'est tout.
Une barbe noire, du mascara noir et des chaussures noires. Je suis désolé, je
veux dire la vérité. Et le rouge à lèvres noir.
J'ai juste un beau. Il était beau il y a 10 ans. Manteau noir. Voilà. C'est tout.
Le baron noir, on l'appelle.
Et donc, toi Enzo,
oui.
Ça vient de...
Bah, tout simplement parce que je suis fan de la Scuderia, donc depuis pas mal d'années, depuis mes études, on m'appelle Enzo. Voilà.
C'est vieux. Hein.
C'est il y a pas mal d'années.
Dernière question, l'idée du SAV. Qui c'est qui va répondre?
Je peux répondre pour vous. En fait, Yannick et Shinji n'avaient pas d'amis. Et à chaque fois qu'ils essayaient de parler de F1 à des gens, les gens se rendaient compte assez rapidement qu'en fait ils ne connaissaient rien à l'histoire de la Formule 1.
Donc, oh, ça va te payer très cher.
On va faire une émission si jamais il y a des gens qui tombent qui tombent sur notre émission et bien voilà, ça sera toujours ça.
Non mais en fait à la base c'était pour faire de l'argent.
Oh, qu'est-ce qu'il est vénal.
Non, je plaisante. Il n'y a pas d'idée
de base.
Et
personne n'en a voulu. Aucune radio connue n'en a voulu. Même pas de nostalgie, parce que étant donné qu'ils ne parlaient pas des Grands Prix des années 70, ça les intéressait pas.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a pris, mais ils n'ont pas voulu nous prendre après. Non, l'idée du SAV, bah, ça c'est un peu venu comme ça. Moi, comme je le disais un peu plus tôt, je faisais donc le Dars Autocritique, qui était un... un petit monologue d'analyse du Grand Prix précédent. C'était sympa à faire, mais c'était fastidieux et c'était chiant parce que voilà, le monologue c'est jamais bon, très c'est jamais très radiophonique. Donc voilà.
Moi, je sais pas, dès la première émission ou la deuxième, tu m'as dit ouais tiens, si tu venais comme ça, hop, ça fera une discussion, ça sera mieux.
Voilà, et le coup du SAV, je crois que c'est venu parce que après l'enregistrement de l'émission, on s'était rendu compte que ça faisait un peu penser au SAV des émissions d'Omar et Fred.
Oui.
Qu'on a en plus avec Shinji cette amitié et cette relation à la Omar et Fred où on s'entend bien, on sait ce que l'un pense de l'autre, etc. Donc
Et lequel est Omar, lequel est Fred? Ah mais je t'ai pas vu à Spa, t'aurais dû venir.
Je serais plutôt Omar, je pense.
Toujours, donc, t'as pas vu?
Donc voilà, et puis après, bah, ça c'est venu tout seul, et je pense que vraiment l'émission est vraiment devenue le SAV la F1 quand tu nous as rejoint, Enzo.
Oui.
Alors initialement, voilà. Juste pour une séquence d'une vingtaine de minutes. Hein.
Voilà, et puis c'est devenu maintenant. Truc et voilà. Donc voilà, autre question, celle de Stéphane.
Bonjour. Je me présente, Janté, futur monarque de l'AFIA. Petite question perso pour chacun d'entre vous. Quels sont les faits de course ou les pilotes qui vous ont fait être fan de Ferrari? Je dois vous laisser là, j'ai un chèque à remplir pour un certain Yannick, qui a réussi avec des collègues à citer 536 fois Michael Schumacher en deux émissions.
Non, il a compté.
Ça sera drôle.
Voilà.
Oh, on a fait plus de 536.
Il n'a pas compté quand même.
Ouais. Donc alors, c'était quoi la question? Je me rappelle plus.
Ah oui. Alors,
quelles anecdotes
Les pilotes ou les anecdotes voilà qui vous ont fait être fan de Ferrari?
Bah toi Shinji
Alors moi c'est particulier en fait, je suis plus justement fan de Kimi que fan de Ferrari.
Voilà.
Vous voyez la différence, c'est quand même importante. Tout ce qui a apporté Ferrari à Kimi.
Traître.
Et aussi tout ce que Kimi a apporté à Ferrari depuis qu'il est dans
l'équipe. Pas grand chose.
Un titre.
Ah bah non, c'est un titre.
Enfin, un titre. Un seul au lieu de trois. Et Schumacher, dans le même temps, il en a rapporté trois.
Non, les premières années, la première année, il en a pas.
Ouais, mais c'est ouais, non, mais lui, ça.
Pour info d'ailleurs, juste pour info, je me suis amusé l'autre fois. Et bon, je vais tout vous dire. J'ai pensé ça en m'endormant un jour. Et j'ai recompté. En fait, Kimi est le seul pilote depuis au moins ces 20 dernières années qui a gagné le titre la première année où il était dans une écurie.
Ouais.
Alors Button, Vettel battront peut-être ça, surtout Button si on considère que Brown Grand Prix n'est pas Honda, ouais. Mais bon, surtout Vettel peut le battre. Peut faire aussi.
Bah, l'année c'est Prost. Mais
avant Kimi, ouais, ça devait être Prost.
Ça devait être Prost, tout à fait. Voilà.
Oh, quelle culture j'ai, c'est incroyable.
On verra ça tout à l'heure.
Enzo, t'as une anecdote toi particulière sur une anecdote ou un pilote?
Alors pour moi j'ai quand même des origines italiennes et donc j'ai toujours forcément été fan de Ferrari mais des voitures de route et j'ai découvert la F1 grâce à un copain quand j'étais au lycée. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Jean Alesi, hein. C'était encore l'époque où il y avait Prost et Mansell, donc ah ouais. 89, 88. C'était les débuts d'Alesi. Et bon, c'est vraiment quand Alesi après a rejoint la Scuderia que j'ai encore plus suivi la F1 et où je suis passé de j'aime Ferrari dans la globalité à vraiment j'aime la F1 et je me réjouis même après un Grand Prix, même si c'est pas Ferrari qui gagne, si c'est une écurie que j'aime bien. Ça me fait plaisir.
C'est-à-dire que tu te réjouis quand c'est McLaren qui gagne. Raconte-nous la victoire de la Hongrie. Est-ce que tu as aimé?
Si c'est une belle course, pourquoi pas?
Ouais. Ouais. J'aime bien le pourquoi pas. Why not? On peut toujours espérer.
Non, je peux te citer des courses qui ont été gagnées par quelqu'un d'autre qu'un pilote Ferrari que j'ai aimé.
Non, mais là, je te parle spécifiquement de McLaren. Tu sais que moi, c'est Ferrari contre McLaren.
Ben oui, mais il y a toujours eu cette rivalité, donc.
Oui.
Mais je tiens quand même à dire parce que je me suis gavé quand même pendant des années, mais si tu savais le nombre de fois où j'ai entendu, alors que j'étais encore au lycée ou au début de mes études, où c'était le pain noir.
Ah oui.
Je supportais la Scuderia. Je leur disais tous les ans, mais si cette année on va gagner le titre, etc., etc. Et après, je me suis gavé quand ils ont tant gagné, quoi. Et franchement, voilà, Je me suis fait une santé, même s'il gagne pas pendant 10 ans, c'est bon.
T'as fait des réserves comme nous.
J'ai fait des réserves.
Moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas vraiment d'anecdote particulière. Je me suis intéressé à la F1 à une époque où t'avais c'est peu après les titres de Schumacher chez Benetton quand il est arrivé chez Ferrari. Mmh. Et
96.
C'est de toute façon quand tu découvres un sport, soit tu t'intéresses à celui qui gagne le sport à ce moment-là, soit tu t'intéresses à l'outsider, celui qui a le potentiel à tes yeux. Et moi, j'ai pas de souvenir précis d'anecdote, mais voilà, le Ferrari m'a tiré et j'aimais bien parce que c'était une écurie qui, à l'époque où j'ai commencé à regarder, c'était pas une écurie qui avait la réputation d'être une tueuse. Ils sortaient d'une bonne grosse décennie assez difficile. Donc voilà, et puis. Personnellement, j'ai fait italien, j'ai très vite été intéressé par l'Italie, par la culture, etc. Donc c'est assez logiquement que je me suis tourné vers la Scuderia. Voilà, et peu à peu, effectivement, à travers...
Mais t'as fait anglais, première langue?
Oui, c'est bizarre, hein.
Eh oui.
C'est bizarre, ça m'a pas attiré, McLaren, voilà. Et puis, bon, j'avoue quand même que le côté Schumacher, certains ont dit l'arrogance de Schumacher, mais ce côté un petit peu dites ce que vous voulez, ça me dise dessus qu'il en a rien à foutre, comme à Monaco quand il se gare à la Rascasse en 2006, qu'il traverse le paddock en disant ben moi j'ai rien fait, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé,
c'était pour regarder le menu,
voilà, du resto. C'est ce côté là moi me plaît bien, moi j'aime bien les vilains petits canards, ce qui fait que j'aime bien Kimi Raikkonen.
Son accident à Silverstone, ça t'avait marqué ou pas?
Oui.
Parce que je me rappelle, tu m'en avais parlé.
J'ai toujours des souvenirs un peu flous de la F1, c'est vrai que j'ai une mémoire assez courte.
Ouais. Donc,
j'ai toujours des souvenirs un peu flous. Voilà, son accident avait marqué, mais assez bizarrement, par exemple, c'est la victoire de Barrichello en Allemagne qui me marque le plus.
Ah.
Voilà, c'est la première course de.
C'était l'année d'après, pourtant.
Ouais, la première course de Mika Salo, je crois que c'est aussi en Allemagne, juste après l'accident de Schumacher. Ouais. Voilà, le départ de Mika Salo, je m'en rappelle. Donc, c'est pas non plus que des anecdotes sur Michael Schumacher, même si j'avoue que c'est très dur de vivre sans lui aujourd'hui.
J'arrive pas à vivre sans toi. Donc... Avec ton remplaçant Kimi. Schumi fait pas de conneries. Quand on l'aime, on s'en va pas.
Oh
on
mon
quitte
Dieu.
Pas la Scuderia.
Monaco,
Monza,
Mola ou bien Spa. Alors, autre question de Jimmy. Que faites-vous dans la vie actuellement et que voulez-vous faire plus tard, à part remplacer l'équipe de TF1 qui présente la Formule 1 une fois vos études terminées? Mais oh. vu ton vieil âge, on va pas t'infliger de nous parler des études. Qu'est-ce que tu fais dans la vie si tu veux nous en parler?
Je bosse dans l'informatique, je suis chef de projet en informatique. Voilà.
J'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Et accessoirement, depuis peu de temps.
Tu fais des dessins.
Oui, non, mais ça c'est une passion, mais enfin, non, je suis également des cours du soir depuis environ une semaine. J'ai commencé des cours du soir au Beaux-Arts.
je le sens tout venir. Non, je suis obligé de raconter aux fans. Voilà, je suis obligé de raconter.
Maintenant, tu peux.
La semaine dernière, pendant qu'on enregistrait, Enzo m'a de nouveau attaqué. Comme quoi, fallait pas. D'ailleurs, je crois que ça, j'ai laissé au montage. Comme quoi, fallait pas forcément m'écouter parce que j'avais pas mon permis. Et Shinji sur MSN, entre temps, m'a envoyé un message en disant, bah, lui, de toute façon, il a pas fait les Beaux-Arts non plus. En rajoutant un lol derrière. Donc c'était de l'humour. Sauf que moi,
c'est de l'humour.
Gros malin, je n'ai pas compris. Donc j'ai interrompu le cours de l'émission et j'ai demandé à Shinji comment ça, il a pas fait les Beaux-Arts lui non plus. Et moi, quand je l'ai dit, je l'ai toujours pas compris. Mais Enzo, lui, apparemment, l'a compris du premier coup. Donc on a évité la guerre froide. Hein. Mais en fait, Shinji peut le dire, c'est quand même un gros compliment.
Bah oui, c'est pour souligner que justement. Bah voilà, de la même façon que toi t'as pas le permis et que bah tu sais très bien critiquer la F1.
Oh, merci.
Voilà, pour souligner que pareil, bah que c'était un très bon dessinateur, même s'il avait pas fait la bizarre. Voilà.
Non, mais je l'ai pas pris autrement.
Oh, même pas au début.
Même pas. Non, il faut peut-être juste expliquer quand même à nos auditeurs, parce que je sais pas s'ils le savent, mais quand on fait cette émission, on n'est pas dans la même pièce.
Oui, parce que nous.
Il y en a un dans la cuisine. Dans les shops, bah, ça tourne de rôle.
Ça, c'est moi, parce que j'ai l'ordinateur portable, donc vous n'avez pas le choix.
Non, je plaisante. Mais on est même.
Si, voyons, on est dans la même salle.
Non, mais c'est vrai qu'il faut quand même dire un petit info en coulisses. On n'est pas, on m'a posé la question, on n'est pas dans un studio, on enregistre de chez nous, par ordinateur interposé.
À quelques kilomètres l'un
de l'autre. Voilà, moi, Shinji se trouve à quelques kilomètres de chez moi, donc on pourrait même le faire ensemble à la maison. Et Enzo se trouve à quelques centaines de kilomètres de nous, donc voilà. On peut même dire d'ailleurs que Enzo, on ne s'est jamais rencontré.
C'est tout à fait vrai.
Voilà. C'est le programme, hein. faut qu'on s'arrange ça, un de ces quatre.
Eh oui.
Donc Shinji, ta vie professionnelle.
Donc oui, comme j'ai arrêté mes études récemment, j'ai commencé, on va dire, ma vie professionnelle et actuellement je suis en CDD. Je suis dans la relation client.
D'où ce petit ne quittez pas, je vous réponds tout de suite.
Voilà, des choses comme ça.
Moi, en ce qui concerne, bah, je travaille dans une école primaire avec l'ambition un jour, si ça veut bien être de mon côté, être enseignant en école primaire.
Oui, ça réussira.
Les pauvres gamins.
Tu feras un super bon point.
Oh, merci. Je rappelle.
N'oublie pas, la pédagogie de la batte de baseball.
Et un jour, dans la cour d'école, tu détecteras le futur Schumi.
Mais je parlais.
Au volant de sa voiture à pédale.
Je parlais Formule 1 avec des élèves. D'ailleurs, je parle toujours Formule 1 avec eux et football aussi. Et sinon, faut pas non plus se cacher. Hein, si jamais dans l'avenir, si jamais il y a des opportunités qui se présentent pour travailler dans le milieu de la F1 ou même faire de la radio, faire de la télé, etc. Oui, bien évidemment, ça fait partie des objectifs. Moi, je suis dans un point donné de ma vie où je ne m'interdis rien et je ne m'autorise rien, donc.
C'est bio.
Donc Jean-Louis Moncet, si tu m'écoutes, voilà, je suis disponible.
Fais gaffe à tes fesses.
Non, c'est pas lui que je veux remplacer. Non, mais, n'empêche, vous vous rendez compte quand même, si on était le trio de TF1, bon, Enzo, pour ses connaissances historiques, serait Jean-Louis Moncet. Il serait plutôt Lafitte.
Comment il s'appelait, c'était...
Pierre Van Vliet.
Machin Rive.
Oui, Johnny Rive.
Johnny Rive.
Voilà. Mais dans le duo actuel, tu serais plutôt Jacques Lafitte.
Bah oui, je suis le seul à avoir le permis.
Shinji serait plutôt Jean-Louis Moncet, pour son côté statistique, etc. Ouais. Et donc, moi, ça me laisse malbranche.
Bon, c'est vrai que t'es plus mal.
Je vous avouerai, c'est qu'à la fois, je suis mal barré, mais en même temps, il n'y a pas trop d'attente, donc ça va.
Bah, d'un autre côté, c'est toi qui as le plus de chance.
Oui. Donc, autre question, toujours de la part de Jimmy. Depuis quand vous connaissez-vous? Y a-t-il une anecdote vous concernant relative à la F1 ou au SAV? Donc, comme moi je vous connais tous les deux et qu'on a fait le lien ensemble, Shinji, je te connais depuis la première année de fac, donc ça fait 8 ans. Et Enzo, je te connais depuis, ça va bientôt faire 2 ans, depuis, je crois, octobre ou novembre 2007, je crois.
Ouais. Avec une idée de scénario sur Desperate Housewives version pilote de F1.
Et quand j'ai commencé à te l'écrire, tu disais non, ça c'est trop compliqué à décider.
Bah oui, j'avais pas encore attaqué les boutons.
Est-ce qu'on a des anecdotes nous liant à la Formule 1? Moi j'ai vu des F1 au salon de l'automobile et au Stade de France.
Bah comme, enfin oui, au salon comme toi.
Voilà. voilà. Mon rêve reste quand même d'aller à un Grand Prix avec Enzo.
Oui.
J'étais à Manicourt en 2004, quand Schumi a gagné avec 4 ravitaillements.
Ouais, oh la vache.
J'étais à Monaco en 2005 ou 2006? C'est Kimi qui a gagné. 2006, je pense.
Kimi, il a gagné à Monaco?
Non, 2005 plutôt.
Ouais, ça devait être 2005. J'ai fait des essais en 2008 et cette année. Et si, moi j'ai une anecdote sur la F1.
Ah, vas-y, raconte.
Ah.
En fait, déjà quand j'étais au lycée, je vous ai dit que j'avais un copain qui m'a mis à la F1, qui m'a fait suivre la F1. C'était des grands prix, étaient retransmis sur la 5. Ça se trouve vous avez même pas connu ce chaîne.
Oui, j'ai connu. Oh.
Si on connaît quand même la 5.
Et bon, bref. Et donc je pour le Grand Prix de Monaco du Japon, par exemple, je me levais à 5h du mat, je prenais mon vélo et je faisais 3-4 km pour aller chez un copain regarder ça. Et quand j'étais étudiant, également, j'avais pas la télé, donc j'avais un copain qui venait me chercher avec sa deux chevaux, parce que j'avais pas de voiture non plus. Et on allait voir le Grand Prix chez un troisième copain qui s'en foutait de la F1 complètement, mais qui était sympa, il nous ouvrait et tout. Non, même, c'était mieux que ça, il nous laissait sa clé. Et on entrait chez lui, on regardait. Sauf que ce jour-là, ce couillon, il a laissé sa clé derrière. Donc on se dit tant pis, on va le réveiller, on va sonner. Sa sonnette ne marchait pas. Oh, on a tambouriné un peu. Il nous entendait pas. Du coup, on est redescendu. On a essayé l'interphone. L'interphone ne marchait pas. Donc merde, dernière solution. Je suis allé dans une cabine téléphonique parce que j'avais pas de téléphone portable.
Attendez, non plus, hein. C'est, ça devient très intéressant. Ah, ça devient comme le chiffre inutile de Shinji de l'émission. Là.
Non mais tu couperas.
Hein. C'est méchant.
Et donc j'ai appelé mon pote à 5h du mat pour le réveiller pour qu'il nous ouvre. Sauf qu'à 5h du mat, j'ai fait un faux numéro et j'ai réveillé quelqu'un d'autre. Donc je me suis excusé, je lui ai dit bon Grand Prix.
Moi, il m'arrivait un peu pareil avec un Grand Prix de Formule 1. C'était il y a quelques années, à l'époque où l'Australie était encore à 4h du matin. Ça devait être il y a 4-5 ans. Et donc c'était le début de la saison. J'étais tellement impatient que j'avais réglé mon réveil et tout. Tout était réglé à l'heure de l'Australie. Et c'était une époque où moi je pouvais pas voir les essais sur Eurosport et les qualifications étaient pas diffusées par TF1. Donc j'attendais juste le dimanche quoi. Et je mets mon réveil. Mon réveil sonne à 4h du matin, fait un barouf de tous les feux parce que j'avais prévu plusieurs réveils, etc. Un dimanche matin, tout à 4h du matin sonne. Je me réveille, je vais me mettre devant la télé, j'allume la télé et j'attends. Et j'attends. Et je m'étais gouré le week-end. J'avais vécu tout le week-end à l'heure d'Australie. Je m'étais préparé le vendredi soir, je m'étais coupé. J'ai couché super tôt, je m'étais réveillé super tôt. Pour me dire comme ça, tu seras dans le rythme et tout. J'ai préparé tout mon week-end et je m'étais gouré le week-end. Voilà.
Moi, ça m'est arrivé. Et pareil, je me levais aussi quelques minutes en avance. Donc, j'arrivais à la télé. C'était encore chasse et pêche, une connerie comme ça qu'il y avait avant.
Ah bah ouais, c'est
ça. Je me suis endormi devant et j'ai raté le départ.
Le nombre de fois où je me réveillais, moi, c'est pareil. À 4h moins 5, tu sais. Puis t'as encore les yeux collés, etc. T'es devant la télé, t'as un œil ouvert parce que le deuxième régule la lumière. Et tu t'endors et puis tu revois, tu fais « Ah, tiens, le ralenti du départ ». Tu te rendors et tu dis « Ah, les premiers arrêts ». Et comme ça pendant 20 minutes, c'est horrible.
La magie des Grands Prix à 4h du matin.
Ah oui, mais faut qu'ils nous remettent ça, il y en a marre là, des Grands Prix à 17h. Tout à fait. Donc, autre question, question de Stéphane, c'est l'une des dernières questions, il nous en reste trois. Donc, question de Stéphane, c'est laquelle? C'est celle-là.
Bonjour à toute l'équipe du SAV de la F1. Je me présente, Lucas B., erreur de casting professionnel en Formule 1. Je souhaite intervenir pour vous demander si la contribution des auditeurs pouvait être envisagée dans l'avenir sur le blog, en vous soumettant des articles. Si oui, quelles seraient les modalités pour pouvoir être publiées?
Moi, je veux pas dire les mecs, mais il y en a un là qui est en...
Un chèque.
Il y en a un qui est en train de loucher sur votre place. Hein. Donc, lequel qui saute? non, sérieusement, faut coucher avec le patron. Voilà, c'est tout. Hein, c'est...
Nous, on a eu la chance d'éviter ça.
Oui.
Ouais.
Moi, que je suis ça a été chaud. Hein.
Mais je connais déjà tout le monde.
Oh. non, sérieusement, ça dépend de ce que vous avez proposé. Vous nous envoyez un mail en nous disant voilà j'aimerais bien faire ça etc. Est-ce que ça vous intéresse?
J'ai pas compris si vous voulez que participer à l'émission ou bien aussi. Un article sur le blog
sur le site apparemment
qu'ils envoient l'article voilà. Et puis vous envoyez
l'article on regarde et puis bah si effectivement c'est intéressant ou si ce que vous avez envie de faire en général c'est intéressant oui voilà il y a pas de problème
oui. Puis si c'est bon on prend on publie puis on met notre nom à la fin.
Nous, tout ce qu'on veut, c'est un peu le ton de l'émission et c'est ce qu'on voulait essayer de faire avec le site, même si on n'a pas forcément le temps, mais c'est ce qu'on voulait essayer de faire avec le site, c'est proposer un ton décalé sur la F1. Pas aller dans l'actu, etc. On aurait très bien pu le faire, aller dans l'actu, mais on voulait prendre l'actu décalé avec humour.
Voilà,
Et on espère qu'apparemment c'est ce qui vous plaît dans le SAV. Tous les messages qu'on a nous disent oui, ce qui est bien, c'est le mélange d'humour et information sérieuse. Donc
je te l'ai toujours dit.
Voilà. Oh. Donc
non mais c'est par rapport à autre chose.
C'est vrai qu'il y a déjà des tas de sites d'actu, donc autant essayer de faire quelque chose d'un
tout
peu
tout à fait. Ça sert à rien de parler. Un bon entendeur.
Mais tu comprends pas ma position, Enzo. Tu comprends pas. On en reparlera. Donc voilà, si vous avez des choses à proposer, n'hésitez pas, envoyez-nous. On vous garantit pas qu'il y ait de la place, mais nous on est totalement ouverts à l'idée d'ouvrir le site. Pour ce qui est de l'émission, moi personnellement c'est autre chose, je vais être honnête. Voilà, on forme une équipe parce qu'on se connaît bien et parce qu'on est trois, etc. Si jamais il y a des affinités qui naît avec une autre personne, pourquoi pas l'intégrer à l'émission? Mais la condition, c'est que c'est cette affinité qu'il y a avec cette personne soit partagée entre tous les trois. Donc voilà, en espérant avoir répondu à ta question, Stéphane.
Mais tout est ouvert.
Voilà. Autre question de Jimmy. Là, tiens, on va en venir au sujet que vous voulez évoquer, Enzo. Pourquoi SAVF1 et Enzo F1 sont deux sites et non pas un site unique?
Ah, bonne
donc,
question.
Je peux déjà donner une première réponse, c'est que à la base le SAV de la F1, comme on l'a dit, c'était un podcast que moi je faisais seul, puis après avec Shinji, c'était en dehors du site Enzo F1, donc voilà. Même s'il y a à peu près la même philosophie, la même vision de la F1 derrière, et si Enzo y participe aujourd'hui, c'était un projet différent. Il se trouve que le site est venu plus tard et que voilà, on n'a pas voulu, enfin, on n'a pas pensé sur le coup à le mettre avec Enzo F1, mais
Attention, scoop.
Mais on y réfléchit. Voilà, on réfléchit à la manière d'intégrer SAVF1 et Enzo F1 sur le même site. Et je pense que ça sera sur le site d'EnzoF1.com. Donc voilà, on donne des scoops là dans cette émission, hein, incroyable. Mais on veut bien réfléchir au truc, on veut bien savoir ce qu'il faut faire avec ce ton humoristique, etc. Faut assurer derrière, faut avoir l'inspiration, etc. Et donc voilà. Enzo, tu as un message
Bonne réponse. Non, c'est je. Bah, tu sais ce que je pense là-dessus.
Oui, moi je sais.
Non, mais pour l'instant, on y réfléchit. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a quelque chose, à mon avis, ce sera pas avant la fin de l'année, voilà, de toute manière.
Oui.
Avant la fin de la saison.
Voilà. Non, de toute façon,
La trêve hivernale est suffisamment longuement longue pour permettre toutes les choses.
et de réfléchir.
Voilà. Donc ensuite, dernière question de Stéphane. Hop là.
Bonjour, je me présente Michael S., ancien dictateur, empereur de la Formule 1. Une question me taraude. Envisagez-vous de faire évoluer le blog vers un site pour pouvoir profiter d'un forum?
Ha!
Un forum.
Alors, honnêtement, franco, direct comme je le pense, non.
Non.
D'abord pour la raison simple, c'est que j'ai participé.
Qui dit forum dit modération.
Voilà, j'ai participé à un forum d'une série télévision et avec Shinji d'ailleurs, auquel j'ai pas mal contribué et.
L'île de la tentation.
Et je dois avouer que
mon incroyable fiancé.
Ah oui.
Non, c'est toi Enzo qui regarde ces trucs.
Oui, c'est vrai. Nous on regarde des séries télé. Et voilà, moi ça s'est mal passé parce que voilà, c'est beaucoup de temps d'abord à consacrer à un forum et puis j'ai la réputation et le caractère d'un pitbull donc je pense que Shinji ira pas me contredire,
Ah ouais, c'est un chieur, hein, s'il le veut.
C'est surtout qu'il faut du temps pour administrer tout ça, etc. Il y en a beaucoup de forums qui existent. Il y en a un qui vient d'être mis en place sur F1 Central. Je vous invite tous à le rejoindre, en plus. Mais non, je pense que ce soit sur le SAV ou sur Enzo F1, je pense qu'on préfère lancer un débat au travers d'un dessin ou d'un article et qu'au travers de vos commentaires, bah, qu'il y ait du répondant auquel nous aussi on participe plutôt que d'avoir X sujet et comme dit Shinji, c'est très très lourd à administrer, à modérer. C'est un plein temps pratiquement de faire ça et c'est pas possible, ouais. Je sais pas si tu partages ma vision sur les commentaires.
Non, je suis tout à fait d'accord. Je vous conseille ceux qui vont pas sur
Ouais, alors là c'est une vie, on ne voit pas souvent dans les commentaires,
hein, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Non mais
je suis quelqu'un qui lit beaucoup et qui commente peu, c'est comme ça, je suis comme
c'est
ça.
Vrai qu'il faut ceux qui ont découvert le SAV pas par le biais de Enzo F1, on vous invite quand même à aller sur Enzo F1. Oui, il y en a quelques-uns.
Oh là là,
l'arrogance même.
Oh, dites-moi, non, c'était que.
Et donc c'est vrai que sur Enzo F1, ce qui est intéressant, c'est que justement les débats sont lancés par les dessins et que dans les commentaires, bah souvent on a des discussions avec les gens et là c'est aussi ce qui est intéressant sur le SAV de la F1, c'est que ça commence peu à peu grâce à vous qui nous envoyez vos participations, ça commence peu à peu à aller aussi dans ce sens-là, voilà, même si le format du SAV s'y prête un peu moins parce qu'effectivement il n'y a pas de débat qui peuvent être vraiment initiés, voilà. D'où l'intérêt.
Mais quand tout ça sera, ne fera
voilà,
qu'un.
Voilà, d'où l'intérêt de mixer les deux pour avoir le maximum de choses. Donc voilà, c'est fini avec les questions spéciales anniversaire. Il y aura d'autres petites interventions, il y aura d'autres questions, il y aura d'autres choses, mais dans le déroulement de la course. Avant de.
Merci à tous.
Merci, effectivement.
Merci à vous.
Avant de revenir rapidement sur quelques faits d'actualité, je crois, Enzo, que tu avais quelque chose de prévu.
Oui. En fait, c'est très lié à l'actualité aussi.
Oui, récente ou.
Eh bien, ça va être un petit quiz entre vous deux, un petit match entre vous deux.
Oh là, oh là 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 là.
Alors, il faut savoir.
C'est une question chacun ou faut répondre le plus vite?
Vous allez voir. Il faut savoir que j'ai déjà prédit un score pour chacun d'entre vous. Je vais vous le mettre dans un fichier et à la fin on verra si je m'étais trompé ou pas.
D'accord.
Donc j'ai une petite intro que je vais vous faire maintenant. Après ce Grand Prix de Spa, les deux maîtres incontestés de Spa sont donc Michael Schumacher et Kimi Räikkönen. Ça tombe bien puisque nous avons deux fans
inconditionnels. Ah non.
Yannick pour Schumi et Shinji. Et Kimi pour Shinji. Et bien sûr, ils savent tout sur leur champion favori sur le plus beau circuit du monde. Donc il y aura un total de 20 points à gagner.
On va être minable.
On va
voir. Oh la vache.
Donc je vais commencer par Yannick. Yannick, pour un point, combien de fois Schumi a-t-il gagné à Spa?
Spa, 4 fois.
Réponse fausse, c'était 6.
Ah, j'ai pensé à 6 dans ma tête, mais je me suis dit non, 4.
Shinji également pour un point. Combien de fois Kimi a-t-il gagné?
Oh non, c'est nul.
Ah voilà, à 4, mais bon, c'est pas... On en a parlé.
Bonne réponse. Je suis plus jeune, hein. Deuxième question, pour 3 points. Et je vais commencer par Shinji cette fois. Quelle est l'année de la première victoire de Kimi à Spa?
2009, 2008...
Non, non, c'est Shinji qui le répond.
Je compte dans ma tête, j'ai quand même le droit.
2005?
Ah, c'est avant, non?
Mauvaise réponse, c'était 2004.
Ah, merde.
Il y a eu une année de pause.
Yannick, oui. Yannick également pour 3 points. Quelle est l'année de la première victoire de Schumi?
C'est pas 92?
C'est... 92.
Yes. Bravo.
Yes. En plus, je m'étais trompé dans mon papier, mais je m'en suis rendu compte aujourd'hui. J'avais pas corrigé sur ma feuille.
Ah non.
Yannick, oui. Pour 2 points.
Oui.
Combien de pole positions Schumi a-t-il réalisé à Spa?
À Spa, oh, putain, je sais, il a fait 8 dans sa carrière. 68 dans sa carrière. À Spa, je sais pas, il a fait 6 victoires. Il a dû faire 7 ou 8, 8.
Eh bien, il en a fait une seule.
Oh la vache. Ah la buse.
Shinji pour 2 points également. Combien de pole positions a réalisé Kimi à Spa?
2.
Et la réponse était une également.
Ah.
Oh la vache. Alors... Je mène toujours, hein, 3-2, c'est ça?
Oh ouais.
3-1.
Oh la vache.
Une question en deux parties. La première partie vaudra 1 point. La deuxième, 3 points. Oh. Alors, c'en est à Shinji. Dans quelle écurie Kimi a-t-il débuté à Spa?
Sauber? Petronas?
Ok, et dans quel modèle précisément pour 3 points?
Alors attends, c'est le modèle 2001. Allez, à tout hasard, C23?
Mauvaise réponse, c'était la Sauber Petronas C20.
C20.
Ah,
C20. Yannick?
Oui?
Dans quelle écurie Schumi a-t-il débuté à Spa?
Alors, c'était en 91, chez Jordan, de mémoire, et c'était en remplacement d'un pilote qui avait eu un problème avec un taxi.
Oui, qui s'appelait Bertrand Gachot. Oui.
Voilà. Mmh. Et le modèle, alors je sais que les Jordan, c'est des EJ. Ils en étaient à EJ12 ou EJ13 quand ils ont arrêté, donc ça doit être, je sais pas, EJ4, EJ5.
Alors, pour info, c'était la première année de...
Donc, EJ01.
Et non, c'était la Jordan Ford 191.
Oh.
Un seul point. Question numéro 5. Et j'en suis à Yannick.
Oui.
Yannick, pour 2 points. Combien de Grands Prix a disputé Schumi à Spa?
Oh la vache. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, c'est pas là qu'il est revenu. je vais prendre un risque, on va dire 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, donc ça fait 14.
C'est ton dernier mot?
Oui.
Eh bien non, c'est 13.
Ah la vache, 99, il n'est pas revenu.
Il est revenu en Malaisie.
J'ai pas le droit à un demi-point pas...
Non.
Oh merde. Cindy. J'ai pris un risque quand même.
Cindy, combien de grands prix? Non mais je te rassure, t'avais faux quand même pour une autre raison.
Ah bon, d'accord.
Combien de grands prix a disputé Kimi à Spa pour 2 points également?
Bon, c'est fastoche.
8.
Mauvaise réponse.
C'est 7.
C'est 7.
Ouais.
Cindy. 4 à 2.
Cindy. Un nombre de points qui peut varier de 3 à 0.
Oh, oh là.
En fonction de votre réponse et ce que j'attendais, je déduis l'écart. Donc, entre 3, moins l'écart que vous aurez. À Spa, quelle est la plus lointaine position sur la grille avant une victoire de Kimi?
On va avoir des zéros là-dessus, je le sens.
Alors
6.
Eh bien, 3 moins 4 égale 0. C'était 10e en 2004. Yannick, à Spa, quelle est la plus lointaine position sur la grille avant la victoire pour Schumi?
En plus, il en a gagné plus que Kimi, c'est pas juste. La plus lointaine, je sais pas, je dirais 12e.
Eh bien, 3 moins 4 égale 0, c'était 16e.
16e. Ah bah, il est plus fort que Kimi, hein.
Ah, ouais, quand même.
En 95. Bravo. Yannick.
Oui. Il reste des questions. Je vais me faire dégommer au dernier moment.
Pour 2 points.
Oui.
Quelle est la raison de l'abandon de Schumi lors du Grand Prix de Belgique en 98?
98, c'est pas l'année, Est-ce que c'est l'année où il s'est fait rentrer dedans par Coulthard? Ouais, je dirais que c'est ça, c'est l'année où il s'est fait rentrer dedans par Coulthard et qu'il a fini dans le stand de Coulthard pour lui casser la gueule.
J'ai envie de te mettre qu'un point sur les deux.
Pourquoi? C'est pas le coup du... Ah, c'est peut-être le coup du gros carton là qu'il y a eu juste après la source.
Non, c'était bien cette année-là qu'il y a eu le gros carton à la source.
Ouais.
Mais seulement, c'est lui qui est rentré dans Coulthard. Alors qu'il lui prenait
Oui, voilà, mais enfin, c'est parce que Coulthard, en fait, il ralentit, que Schumi s'attend pas à ce qu'il ralentisse. Voilà.
Ça, c'est pas le même sens, hein.
Oui, mais c'est ça, c'est un débat sans fond. Voilà. Il va me donner qu'un point pour ça. Là, franchement, pour tout à
l'heure. Allez, je te donne les deux.
Merci.
je te donne les deux parce que l'équivalent pour Cindy est facile. Cindy, pour 2 points, quelle est la raison de l'abandon de Kimi lors du Grand Prix de Belgique en 2008?
Oh, là, là. Ah, mais c'est une sortie de piste sous la pluie. Il a perdu le contrôle de la voiture, il s'est pris le mur.
Tout à fait.
Je suis pas d'accord, il a juste mordu sous l'herbe. Je porte réclamation.
Donc, si je vous fais un rappel des points.
Ça fait 6 pour moi, 4 pour Shinji, je crois, non?
C'est ça, exactement ça. Sauf que la dernière question est une question de rapidité.
Oh. Ah.
Elle vaut 3 points. Et c'est le premier qui répond juste qui marque 3 points. Donc... Okay. Quel est le classement de Schumi ou bien de Kimi? Donc Schumi pour Yannick, Kimi pour Shinji, lors du Grand Prix de Belgique en 2003.
Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu
de course. Bravo. Bravo.
Ouais.
Ah, bravo.
Yes. Yes. Bravo.
Donc, 9 points pour 0 à 4. Et maintenant, vous allez pouvoir voir mes prédictions. Je vous pensais meilleur.
Alors, il me donnait perdant. Non, tu corriges, je te dis pas, je vous pensais meilleur. Je pensais Shinji meilleur. Parce qu'il faut quand même dire que tu donnais 13 points à Shinji et 7 pour moi, alors que j'en ai une 9.
Oh, yo, 13, t'es gentil, hein, t'es gentil.
Et je tiens, voilà, c'est la preuve que je suis pas aussi nul que ça en histoire de la Formule 1.
Tout à fait.
Hein?
En histoire de Schumi.
Non, quand même, là, t'as été bon.
Oui, moi, non, t'as été pas mauvais.
Ouais.
Voilà, c'était un petit jeu, un petit quiz.
Ah bah, c'était très très distrayant.
Ah oui.
Donc, retour sur l'actualité.
Bien sûr.
On va essayer d'y aller vite. Le calendrier 2010 a été officialisé.
Oui, peu de changements en fait.
Avec comme principal changement le retour du Canada, la présence de Bahreïn en manche d'ouverture de la saison.
Mm-hmm.
Comme le Grand Prix de Valence qui devient le Grand Prix de Méditerranée.
Voilà.
Bah ça va dépendre de.
Ça va dépendre de si. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est voilà. Que si Donington est prêt à temps, ça sera le Grand Prix d'Angleterre. Si Donington n'est pas prêt à temps, comme Donington, c'est eux qui ont le contrat pour le Grand Prix d'Angleterre, il n'y aurait pas de Grand Prix d'Angleterre, mais il y aurait un Grand Prix d'Europe qui aura lieu à Silverstone, à la même date. Et donc, par conséquent, s'il y a un Grand Prix d'Europe, le Grand Prix de Valence ne serait plus Grand Prix d'Europe, mais serait Grand Prix de Méditerranée.
Quelle magouille.
Incroyable, hein.
Toujours pas de Grand Prix de France.
Toujours pas de Grand Prix de France, même si Jean Todt promet de travailler avec la Fédération française pour qu'il y ait un Grand Prix de France à l'avenir.
Donc ça fera 18 courses.
18 courses. Bahreïn qui sera donc en ouverture comme il y a 2-3 ans, je crois. C'était Bahreïn d'ailleurs, si je ne me trompe pas.
Non, il n'a jamais été.
Oui, c'était Bahreïn il y a 2
ans. Il l'a été une fois.
Parce que c'était les Jeux du Commonwealth et c'est même Nico Rosberg qui avait signé meilleur temps dès son premier Grand Prix. À préciser aussi qu'on a appris que la Corée du Sud avait le financement pour finir le circuit qu'ils ont entamé pour une introduction en 2010 ou 2011, mais ils parlent de
début. Ah, ce sera 2011 quoi.
Donc information à compléter. Parce que, attention, le calendrier n'est que provisoire. Hein. Donc c'est comme l'année dernière, on avait eu un calendrier provisoire et puis dans les derniers mois, dans les dernières semaines du mois de décembre, on a eu le droit à des changements. Toujours côté circuit, on avait parlé la semaine dernière de la Belgique qui serait en alternance.
Peut-être.
C'est désormais chose officielle. La Belgique, enfin le président du circuit de Spa-Francorchamps l'a annoncé dès 2010. Donc 2010 sera la dernière édition annuelle et après il y aura une alternance qui sera mise en place une fois tous les deux ans avec un circuit dont on ne sait pas quelle sera l'identité.
Voilà. Ouais, bah, comme t'as dit, hein, peut-être l'Allemagne, hein, vu qu'aussi ils ont des difficultés.
Voilà, ce sera sans doute le Nürburgring qui deviendra le Grand Prix du Luxembourg. Et puis, on aura comme ça tout le temps le Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Dans le rang des actualités pilotes, Massa, qui sera donc absent jusqu'à la fin de saison en 2010, on l'a appris hier.
C'est pas confirmé encore.
Oui, c'est
quoi Ferrari a laissé entendre que c'était comme ça. Hein.
Ferrari a dit que c'était comme ça. Massa, lui, se prépare pour 2010. Donc voilà, il a passé des examens la fin de semaine dernière et lundi. Et donc, si tu veux, le truc, c'est que comme il va faire une chirurgie esthétique dans les prochaines semaines pour corriger sa cicatrice, quoi qu'il arrive, il sera pas prêt, il sera pas remis pour la fin de la saison.
C'est pas plus mal, hein, on l'avait dit, hein, l'important c'est sa santé, vaut mieux qu'il revienne plus tard et en pleine forme.
Voilà. Donc concernant ses remplaçants, on parle bien évidemment de Giancarlo Fisichella, même si les deux parties nient les contacts. Il est quand même difficile de ne pas voir Fisichella vu ses deux derniers Grands Prix.
Puis bon, on a déjà parlé, hein, les médias italiens, remplacer un Italien, vaut mieux mettre un Italien à la place.
Ah, on parle.
Pourquoi aussi... Mais pourquoi il y aura plus Bedoar?
Non, c'est ça.
C'est pour remplacer Kimi, pardon.
Non, c'est pour remplacer Badoer. Même si Badoer.
Celui qui avait annoncé qu'il ferait mieux à Spa.
Badoer.
Il a fait mieux. Il y a eu des abandons. Attends, Trulli a pas réussi à le doubler, hein.
Voilà, j'ai dit. Elle est régulière en plus. En même temps, Trulli, c'est Toyota. Hein. Donc voilà, j'avais coupé au montage ce qu'on avait dit sur les potentiels remplaçants de Fisichella, de Badoer. Il semblerait que l'hypothèse Bourdais s'évanouisse un peu parce qu'on a appris que Bourdais serait engagé en Super League Formula, le championnat qui mêle Formule 1 et football. Et que petit problème, c'est que la manche de Monza qui aura lieu le 4 octobre en Super League Formula se chevauche avec la manche du Grand Prix du Japon.
Ah oui.
Voilà. Mais bon, je pense que si Bourdais, on lui dit, écoute, tu pilotes pour Ferrari, il fera le choix rapidement. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle du jour. On l'a appris aujourd'hui. Bourdais reprend la piste. Sinon, comme remplaçant, bah oui, il reste Fisichella. Il reste aussi Bortolotti, qui est l'un des trois pilotes de Formule 3 italienne qui avait essayé la F2008 en novembre ou décembre dernier, 2008. Il avait fait des bons temps, il avait même battu les records avec la voiture 2008, les records de Gené, Badoer et Kimi Raikkonen sur le circuit du Mugello. Donc voilà, comme en plus Ferrari a l'air décidé à monter se doter d'une filière de recrutement, Bortolotti pourrait être une hypothèse puisque Bortolotti en ce moment court de mémoire en Formule 2, le nouveau championnat de la FIA. Schumi, le remplacement, il est exclu. D'ailleurs, Schumi a déclaré dans la presse qu'il ne reviendrait pas. C'était ferme et définitif.
Voilà.
Et Massa, lui, Massa, lui, nous a donné une hypothèse quant au retour, au non-retour de Schumi, ça serait un problème de vue. Apparemment, dans les courbes, dans les grandes courbes, il aurait des difficultés à voir la piste.
C'est le même Massa qui a lancé le truc sur Renault, c'est ça? Et moi, oui. J'y ferais mieux de se reposer le cerveau.
ouais.
J'aime bien Massa, mais là, il nous en sort des conneries.
On y reviendra là sur l'affaire Renault. Donc, ça s'est fait. Côté jeune pilote aussi, bon, on en a parlé pour chez Ferrari la semaine dernière, je crois. Et d'ailleurs, Froissart aussi, on a fait la promotion sur son blog, c'était le scénario Ayrton.
Bruno
Senna, pour les derniers Grands Prix. Toujours est-il qu'il a déclaré que pour l'année prochaine, il était en contact avec 4 équipes au moins, dont on pense Brown Grand Prix, USF1, etc. Donc,
Brown, non, ils ont confirmé.
Ils ont rien confirmé.
De pilote.
Ah non.
Il n'y a rien confirmé. La rumeur à 99%.
Voilà, ils ont dit qu'ils voulaient les garder, mais il n'y a rien d'officiel parce que d'ailleurs Barrichello est convoité par USF1. Donc voilà. Pour le moment,
ça ferait pas mal une nouvelle écurie qui se crée et qui arrive avec le numéro 1.
Ouais. Donc parce que pour le moment, on peut le confirmer. Donc il y a Lewis Hamilton qui a un contrat et on voit mal. Voilà, il n'est pas encore confirmé officiellement, mais bon, c'est très bien qu'il sera chez McLaren l'année prochaine. Il y a les deux pilotes Red Bull. On va écarter.
Et Nico, c'est pas fait.
Nico Rosberg, c'est pas fait. Alors oui, non. Jean-Louis a reçu un SMS pendant la F1, mais c'est pas encore officiel.
C'est moi qui lui ai envoyé.
Mais oui, ah oui, c'est vrai. Et sinon, il reste aussi Timo Glock qui a été confirmé, mais Timo Glock il cherche quand même ailleurs parce qu'il sent pas l'avenir de Toyota.
Bah parce que Toyota n'a pas confirmé.
Voilà, il y a un vent mauvais qui vient du Japon en ce moment apparemment, donc voilà. Sur quoi je voulais revenir ? Oui, j'ai eu un petit message audio que je voulais vous faire écouter pour les pilotes.
Oui, bonjour, c'est encore nous. On vous appelle suite au message de la semaine dernière. Voilà, on a renoncé au groupe Facebook. Hein, donc, on a retiré nos menaces, on a bien réfléchi. On s'excuse d'ailleurs auprès de Yannick pour tout ce qu'on a dit. Et c'était pas forcément très sympathique et très accueillant. Donc voilà, on a un nouveau combat aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, on va s'acharner à chercher... les erreurs que vous commettez dans le SAV, et on en a remarqué une belle la semaine dernière, vous avez oublié de parler de Nelson Piquet, mais c'est quoi ce travail les gars? Hein? C'est quoi ce travail? Vous attendez quoi là? Nelson Piquet c'est quand même important, c'est de la grosse actualité quand même, faut en parler. Donc alors, ce départ Piquet, qu'est-ce que vous en pensez?
On en a rien à foutre.
C'est un peu ça en fait.
Ah là, on n'en dira rien, ça va pas parler, c'est fait exprès.
J'ai cru qu'il allait nous dire qu'on avait fait une erreur, parce qu'il paraît qu'on a parlé d'un pilote, on s'est trompé, mais on sait pas lequel.
Ben ouais, voilà.
C'est pas lequel, mais on sait pas sur quel sujet.
Je sais plus, c'est Iceman Air ou c'est Stéphane qui nous a dit ça. Je sais plus.
Donc c'est bien gentil, mais il nous faut quand même une paire.
Voilà, on renonce, on donne notre langue.
Voilà. Hein.
toujours dans l'actualité pilote, donc voilà, on a bouclé l'affaire Piquet, ça c'est fait. On a aussi une petite news d'Enzo qui nous a donné avant l'enregistrement. C'était quoi ta news, Enzo?
Franck Montagny qui était en contact avec USF1.
Ok, pour étayer un peu la...
Une source F1 centrale.
Oh, merci. Pour étayer un peu cette hypothèse, faut savoir que Montagny a fait, il y a la semaine dernière, ou il y a deux semaines, une course d'IndyCar avec la Andretti Green Racing. Bon, course où il a été pris dans un accrochage dans le premier tour et il a abandonné sur... La voiture était inconduisible, donc il a abandonné au milieu de course. Mais donc, voilà.
Il a fait une gros jambe, quoi.
Oui. Donc, voilà, pourquoi pas. On verra. Sinon, petit débat. La troisième voiture qui devrait être discutée à Monza, vous y croyez ou vous y croyez pas, vous, à la troisième voiture l'année prochaine?
J'y crois pas du tout.
Tout dépend de la décision de Toyota et de Renault dans les semaines à venir. Parce que je pense que plus le temps passe, plus les nouvelles candidatures auront du mal à se mettre en place. BM, on n'a toujours pas de repreneur. Ça risque de pas être si simple que
Alors,
ça. Et...
Au jour d'aujourd'hui, on est encore sur 12 équipes. Hein, ou 13 moins BM, donc avec 12 équipes, 3 voitures, c'est pas justifié.
Attention, BM est inscrite, hein.
D'accord, donc,
oui,
donc 13 équipes.
Pas
donc là encore moins, 3 voitures, c'est pas justifié avec 13 équipes.
tout ce qu'on sait pour le moment sur BM, c'est que BMW, ils ont comment ça s'appelle, Peter Sauber aurait, je crois, de mémoire 60 ou 65 millions sur les 100 millions que demande BMW.
Non, mais du moins, je t'interromps, Shinji. Rien n'empêche, du moins, on dit pas toutes les écuries auraient forcément trois voitures.
Voilà. Et pourquoi certaines équipes auraient droit à trois voitures et pas d'autres?
Et pourquoi dans les années 90, que tu n'as sans doute pas connu, il y avait des écuries qu'avec une seule voiture? Il y avait des écuries qui n'engageaient qu'une seule voiture.
Non, mais après, c'est ça le truc aussi qu'il faut définir, c'est est-ce que les trois voitures comptent ou est-ce que c'est trois
voitures? Bien sûr que non. Après, voilà. Après la troisième voiture est hors championnat constructeur. Par contre, elle est pilote. Pour le championnat pilote.
Et il n'y a que deux voitures, les deux premières voitures sont comptées dans le championnat constructeur.
Voilà.
Voilà,
c'est un peu plus compliqué à compter, mais voilà, je pense qu'il y aura une nouvelle écurie qui vient d'arriver, ne prendra pas trois pilotes. Je sais plus à partir de quelle année on a pu ça. 89, je suis persuadé qu'il y avait encore des voitures avec une seule voiture. 90 aussi. 92, je suis sûr qu'il n'y en avait plus. Je dirais 90-91, les dernières années où on avait que certaines écuries qui avaient une seule voiture.
Ok. Moi perso, trois voitures, voilà. Je sais pas. En même temps, c'est vrai que je préfère voir les pilotes se battre à bord de Ferrari, McLaren, Renault, à bord des meilleures voitures, plutôt effectivement de les voir chez Campos, chez Manor, chez USF1, qui sont quand même des seconds couteaux de la F1 et qui, soyons honnêtes, n'ont pas franchement pour le moment de grand avenir. Alors je sais, on va nous ressortir l'exemple de Brown Grand Prix, mais il faut quand même rappeler que Brown Grand Prix, ils ont des circonstances particulières.
Brown Grand Prix n'est pas une petite équipe.
Et que l'année prochaine, Brown Grand Prix va sans doute rentrer dans le rang. Voilà, et que les petites équipes aujourd'hui pour percer, leur seule solution, c'est effectivement de bénéficier d'un changement de réglementation ou un truc dans le genre.
Après, la crainte, c'est des années comme, si tu tombes sur une année comme 2002 ou 2004, où t'as une équipe qui domine, bon, bah, si c'est pour avoir un podium 100% d'une même écurie à chaque fois, c'est un peu décourageant pour les autres, quoi.
Je sais plus qui, je me demande si c'est pas Frank Williams, c'est le cauchemar, mais évidemment, c'est un podium Ferrari.
Voilà, tout à fait.
On parlait de Williams, Williams qui, encore une fois, a sorti son bâton de pèlerin et qui a dit, non, nous n'aurons pas de troisième voiture.
Mais oui, je veux un moteur Renault.
Oui, je veux garder le Kers.
En parlant de moteur Renault, c'est cette semaine que normalement Mercedes doit décider quelles écuries elles équipent pour l'an prochain. Et il y a de grosses rumeurs comme quoi Red Bull serait équipé d'un moteur Mercedes et perdrait et n'aurait plus Renault.
Et donc Renault passerait chez
Williams. Williams récupérerait Renault.
Justement, je voulais revenir sur les problèmes Red Bull des moteurs et vous suggérer une petite hypothèse.
Oui.
Je me rappelle qu'il y a quelques années, on appelait les flèches d'argent les flèches de verre parce que leur moteur cassait comme du verre. Et qui était l'ingénieur des McLaren à l'époque?
Oui, mais ça c'est...
Il y a aussi une question de fabrication des moteurs.
Est-ce que... Bah oui, mais globalement les moteurs...
Il faut savoir qu'avant, je crois que c'est 2000, les moteurs Mercedes utilisaient un composant qui s'appelait le beryllium.
Oui, non, mais attention, moi je parle.
Il a été interdit.
Je te parle des McLaren des dernières années.
Par
exemple, 2006, 2004, les McLaren.
C'est pas nouveau. New Way fait des voitures qui sont tellement profilées et affinées et ils poussent à l'extrême tous ces concepts.
C'est ce que je voulais dire. Est-ce que c'est pas la faute, comme New Way est le responsable de la RBR, est-ce que c'est pas lui, c'est pas de son côté qu'il faut regarder, peut-être qu'effectivement, aérodynamiquement, la voiture ne laisse pas suffisamment s'aérer les moteurs, peut-être que ce qui s'est passé à l'époque de McLaren en 2004, 2006, où les voitures cassaient comme du verre, est-ce que c'est pas lié aussi le même problème chez Red Bull?
Et d'ailleurs, tu remarques qu'elle ne casse plus.
Pourquoi taper sur Renault si le problème vient en interne? Donc voilà, c'est ça aussi, je pense. Même si je pense que parce que voilà, c'est une équipe autrichienne et qu'ils ont vu quand même ce qu'apportait Mercedes, je pense qu'ils iront chez Mercedes, mais voilà, je pense que faut pas non plus taper sur la Renault, d'autant que les moteurs Renault de la Renault ne cassent pas. Les roues oui, mais les moteurs non. Ensuite, j'avais noté l'affaire du motorhome de Force India, qui était assez symbolique.
Ah bon?
Le Force India est venu avec un motorhome, apparemment c'était juste un bus. Ils ont expliqué que c'était parce qu'ils n'avaient pas le temps de le démonter et de le remonter entre Valence et la Belgique, ce qui est effectivement probable, hein, puisque je crois que vendredi matin, McLaren était encore en train de monter son motorhome. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, si vous vous souvenez bien, on avait eu une perquisition de la police. Parce que Vijay Mallya n'avait pas payé le motorhome, enfin avait des dettes sur le motorhome. Et comme la Belgique, c'est pas très loin de la frontière allemande, ils se murmurent qu'effectivement, s'ils sont venus avec un motorhome piteux comme ils ont ramené, et ben c'est parce qu'ils voulaient éviter de revoir débarquer la police, parce que ils ont trouvé un arrangement grâce à Bernie Ecclestone avec le fabricant du motorhome après l'Allemagne, mais qu'ils ont toujours pas payé leurs dettes.
Ah.
Donc voilà. Mais de toute façon, en ce moment, ils sèment des dettes partout, ils se murmurent qu'ils ont 10 millions de dettes avec Ferrari, que voilà.
Et je crois qu'ils ont accepté aussi de faire un rabais si Fisico attaquait voilà. pas trop
ça Kimi serait, à Spa. Ça serait dans un deal, et puis s'il attaquait pas trop Kimi, et puis s'il le cède, je pense que la somme sera revue et corrigée. On revient sur la bombe qui a explosé au soir du Grand Prix. Donc on a appris dimanche soir qu'une enquête avait été ouverte par la FIA sur le Grand Prix de Singapour 2008. Pour mémoire, en 2008, donc on avait eu Alonso qui s'était imposé. Il s'était imposé grâce à un coup du sort, hein, dira-t-on. Un coup du sort qui fait que il était rentré au stand et que au même moment Nelson Piquet Jr. sortait, faisait un tête-à-queue et sortait dans le mur, ce qui avait provoqué voiture de sécurité, et donc favorisant largement la stratégie d'Alonso. Il se murmure, mais c'est même plus un murmure, déjà à l'époque l'accident avait soulevé des interrogations, les interrogations sont devenues des accusations, puisque la FIA aurait reçu des témoignages et des preuves, preuves qui auraient, alors les sources sont assez divergentes, moi je sais que c'est Piquet Senior qui a un ami apparemment qui travaille à la télévision à TV Globo, c'est TV Globo qui a lâché l'information, et donc apparemment Piquet Senior aurait fait savoir à son ami que voilà, il y avait eu les consignes qui avaient été données. On dit aussi que Felipe Massa a fait des accusations. Je pense plutôt que c'est des accusations en réaction aux accusations. Voilà, je pense que lui aussi dit que, effectivement, c'est louche. Quoi qu'il arrive, qu'on restitue après, puis après on donnera notre avis, si jamais il devait être avéré que c'est une tricherie. On se rappellera que la dernière fois qu'on a eu un cas de tricherie comme ça, les deux dernières fois, ça avait été pour Barr, pour Honda qui avait mis un double réservoir, ça avait été 3 grands prix de suspension. C'est ce que pourrait risquer Renault, à mon avis, au minimum. Et que le dernier grand cas de tricherie, ça avait été bien sûr l'affaire d'espionnage McLaren-Mercedes-Ferrari, qui avait valu exclusion du championnat à McLaren, mise sous surveillance de la FIA pendant un an et amende de 100 millions de dollars.
Et avec le même Flavio Briatore, en 1994, l'histoire de Benetton et des pompes à essence où ils avaient enlevé un filtre pour que le débit soit...
plus important,
tout à fait. Plus important. Où ils avaient eu également 3 grands prix de suspension. Pour info, quand il y avait eu des sanctions comme ça en 97 pour Schumi pour son geste à Jerez sur Villeneuve, il avait été complètement déclassé. On lui avait supprimé tous ses points. Par contre, toutes ses victoires lui avaient été restées et on n'avait pas recalculé ni redistribué ses victoires. Voilà. Donc, ouais. Et ça, c'était que quelques mois après. Donc, je pense pas que un an après, on redistribue la victoire à Nico Rosberg, voilà, qui avait fini deuxième.
Après, effectivement, les conséquences dans l'immédiat, moi, je pense que s'il y a sanction, si c'est avéré qu'il y a sanction, ce sera des sanctions immédiates, pas à effet rétroactif, ce sera des sanctions immédiates aujourd'hui. Ouais. Je voudrais vous poser deux questions. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Et ensuite, quelles sanctions vous envisagez
C'est vrai que c'est très étrange, parce qu'à l'époque, on l'avait évoqué, mais c'était pour rire.
Oui.
Parce que justement, c'est vrai qu'il y avait cette espèce de... Voilà. Voilà, de coïncidence. Mais c'est vrai que là, en plus, on parle vraiment de, on parle de demander à un pilote de se crasher.
Ouais.
Moi, par,
mais de là, oui, à.
Ce qui est marrant.
À anticiper ce genre de choses. Ouais, vas-y.
Ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé des vidéos, là, sur iTunes. En fait, il y avait un lien sur la vidéo du crash sur F1 Central. C'est moi qui fais de la pub aujourd'hui.
J'ai rien à dire, moi, aujourd'hui. C'est chouette.
Donc, je suis allé la voir. Et il y avait d'autres vidéos. Et notamment, il y a une vidéo du tour de chauffe où Nelson manque de se prendre, de faire la même sortie. On dirait qu'il fait une répétition, quoi. Parce que pendant le tour de chauffe, il fait un tête-à-queue au même endroit et il passe à 10 cm du mur, quoi. Et il a failli se crasher de la même façon, quoi. Il va faire la même. On dirait vraiment qu'il dit bon, ah ouais, si je fais ça, ça peut marcher, quoi.
Donc toi, tu y crois, toi?
Connaissant Briator, c'est possible. Comme dit Denis Chevrier dans l'article d'un bon site, Piquet, il était sur la sellette à ce moment-là.
Ouais.
Donc c'était un moyen aussi de faire en sorte de conserver sa place.
Ce qui expliquerait effectivement qu'il ait été renouvelé en fin de saison, alors que honnêtement,
contre toute attente.
Voilà. Moi, mon opinion, elle est assez proche de la tienne, Enzo, et je partage aussi la remarque un peu incrédule de Shinji, à savoir comment on peut demander à un pilote de se crasher et comment le pilote peut le faire. Après, c'est vrai que je crois ça tout à fait possible. Après, faut aussi voir qui profère les menaces, dans quel contexte. Faut quand même, on l'a dit, c'est Piquet Senior apparemment qui est à l'origine de l'accusation. Piquet Senior qui a donc sans doute en travers le fait que Briator se soit débarrassé de son fils. Et faut quand même rappeler qu'il y a un vieux contentieux entre Piquet Senior et Briator, puisque Piquet Senior avait été viré face à Michael Schumacher.
De Benetton.
Voilà. Donc, il y a peut-être un vieux contentieux. À cela s'ajoute la FIA qui avait déjà...
En 92, hein, il a été viré.
92. À cela s'ajoute la FIA qui a déjà fait la peau à Ron Dennis, hein, l'année dernière, enfin, lors de l'affaire d'espionnage et, dernièrement lors de l'affaire du mensonge d'Hamilton en Australie. Et il se murmure, et je pense que c'est vrai, que avant de partir, Max Mosley aurait aussi envie de faire la peau d'un de ses autres grands contestataires, d'un de ses grands autres rivaux, à savoir Flavio Briator.
Il y a un truc qui est marrant dans le parallèle quand même, c'est que en 2007, Alonso était chez McLaren, soi-disant il n'était pas au courant. Du moins, non, pardon. Il n'était pas au courant, mais finalement, il n'a rien dit, mais il était parfaitement au courant.
Ouais, il envoyait un CMS quand même.
Ouais. Et l'an dernier, il était également chez Renault. Alors, est-ce qu'il pouvait ne pas être au courant?
Putain, avec Ferrari, ça promet.
Non, mais...
Ramenez-nous Jean-Todd, Ross Brawn et Alonso. On va vous tuer les prochaines saisons, on va vous faire des scandales.
C'est un hasard, je pense.
Oui, je pense que c'est un hasard. Je pense que c'est pas le pilote qui est à l'origine. Puis c'est pareil, c'est aussi un enjeu pour tout comme cette année, c'est aussi un enjeu pour Renault, qui doit aussi garder son pilote et qui devait absolument lui offrir la victoire et mettre tout de son côté. Donc, moi, j'ai tendance à y croire. Je demande à voir les preuves et je n'accuserai pas, voilà. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être suspicieux sur cette affaire-là. Même si, voilà, je fais attention à qui accuse et j'attends de voir ce que ça va donner.
Là-dessus aussi, moi, j'ai pas mal entendu que c'était Massa qui avait fait des révélations aussi là-dessus. Alors, je me dis trois choses. Soit il perd la boule après son accident. soit il a peur qu'on l'oublie, donc il parle un peu pour qu'on s'intéresse à lui, ou bien c'est Ferrari qui a demandé à Massa de lancer cette histoire pour discréditer Renault pour mieux attirer Alonso à Maranello, quoi.
Ça, c'est pas con comme scénario, ça.
C'est pas mal, ça. Mais non, mais il y a que les mauvaises langues qui n'aiment pas la Scuderia qui pourraient penser ça.
C'est vrai.
Donc on n'en parlera pas, tu couperas en montage.
Je sais pas. Donc on a fini avec l'actu. Je voudrais vous soumettre à un petit jeu.
Ah.
Oh.
Un petit jeu sur l'actu. La question Laurent Ruquier de l'émission.
Qui a dit ?
Donc ça s'appelle la question actu qui passe inaperçue. Je n'ai pas eu le temps de faire de petit jingle. Attention messieurs, vous n'avez pas le droit.
C'est une question de rapidité, c'est quoi ?
C'est une question, de rapidité. On va pas passer deux heures dessus. C'est une question assez compliquée, mais c'est une question. Vous me posez des questions, je vous réponds par oui ou par non. Je vous mets sur la piste et puis voilà. Pas de Google. Vous éteignez Mozilla Firefox, Internet Explorer si vous l'utilisez, Opera et compagnie. Vous êtes prêts, messieurs ?
Oui. Chrome, on peut.
Attention. Hein ?
Chrome, on peut.
Non, Chrome, tu peux pas, non. J'ai dit Google, non. Donc attention, écoutez bien la question. En plus, vous ne pourrez pas taper dans Google, c'est impossible. Pour quelle raison la BBC a-t-elle invité Axel Kruisbergs à Spa-Francorchamps.
C'est qui?
À trouver qui c'est, vous trouverez.
Il a gagné sur ce circuit?
Il n'a pas gagné sur ce circuit.
C'est un chanteur?
C'est pas un chanteur.
C'est un architecte?
Non, c'est pas un architecte.
Est-ce que c'est un gars qui a un lien avec la F1?
Non, aucun lien avec la F1.
Un lien avec la...
Oui, ça a un point commun avec la F1. Mais un point commun très éloigné, donc vous basez pas là-dessus.
C'est plus lié au circuit?
C'est lié au circuit, oui.
Est-ce que ça peut, donc ça pourrait pas être sur un autre, pour une autre course?
Ça aurait pas eu l'intérêt sur une autre course. Voilà, c'est sur Spa-Francorchamps, ça. Pour vous donner un indice, c'est en rapport avec le rayon de l'eau rouge.
Ah. Il fait quoi comme métier?
Je peux pas vous le dire.
Il est... C'est lui qui fait la surface de la piste tous les ans?
Non. Non.
Il est custo.
Il est pas custo.
Il fait un métier dans l'art?
Pour certains, ça peut être un art. Pour moi, c'est pas un art.
Il a fait les beaux-arts?
Il a pas fait les beaux-arts.
Il fait des compressions?
Il fait pas de compressions. le lien est très malin. Non, je vous répète la question. Pour quelle raison la BBC a-t-elle invité Alex Kruisberg à Spa-Francorchamps?
Est-ce que c'est important le fait que ce soit la BBC?
Non.
Ça aurait été TF1 ou Rai.
Oui, bah, je pense que c'est pareil. Il doit être anglais, donc.
Oui, d'accord. Oui.
Ah, d'accord.
Donc c'est pour ça. Mais que ce soit la BBC ou personne d'autre, non. Il n'y a que la BBC qui peut penser à un truc comme ça. Ce Alex, il a fait quelque chose sur le raidillon de l'eau rouge. À vous de trouver quoi.
Il a fait du vélo.
Il n'a pas fait du vélo.
De la luge?
Pas de la luge. Mais on se rapproche.
Il a monté le rouge ou il l'a descendu?
Il l'a monté et il l'a descendu.
En
c'était
roller.
C'était pas en roller.
En skateboard.
En skateboard.
Et exact, je l'ai vu, j'ai vu
Alex,
les photos.
Bravo. Alex Kruisberg, il a 15 ans, il est champion d'Europe de skateboard, il a monté le raidillon de l'eau rouge en skateboard, il l'a redescendu et a atteint la vitesse de 42 km/h.
J'ai vu
pas
les
mal.
Photos.
Quand même. Donc voilà, c'était mon petit jeu à la Ruquier.
Vous aurez trouvé un jingle.
Oui, voilà. Faut que j'étudie le dossier. Je vous propose de passer aux qualifications vite fait. Qualification dans l'ensemble assez abracadabrantesque.
Ah oui, on peut le dire, oui. Enfin.
Voilà. Je vous propose tout de suite comme ça de commencer par une réaction qui est une réaction, si je ne me trompe pas, d'Iceman Air. Je commencerai tout d'abord par parler du circuit qui est pour moi le plus beau circuit du monde. Lorsque j'ai revu un tour du circuit à Spa en caméra embarquée, je suis resté bouche bée par la beauté du circuit et de ses superbes virages comme le célèbre Raidillon de l'eau rouge, Pouhon ou encore Blanchimont. Je me rappelle que lors du SAV du Grand Prix de Belgique 2008, Dino avait critiqué la nouvelle chicane de l'arrêt de bus car il trouvait qu'elle dénaturait le tracé et il l'avait qualifié de merdasse. Je confirme. Contrairement à Dino, je ne la trouve pas si mauvaise que cela. Elle n'est certes pas exceptionnelle, mais elle offre une bonne opportunité de dépassement, surtout en 2008.
C'est vrai.
Ce qui est toujours appréciable. Sinon, pour moi, Spa permet de juger la qualité d'un pilote, et c'est donc pour cela que j'affirme qu'un certain pilote très à l'aise sur ce circuit récemment vainqueur, et dont je suis un très grand fan, fait partie des meilleurs pilotes du moment. Je vous laisse deviner de qui il s'agit.
Il parle de physique, là?
Non. Non. Je m'oppose donc à toute intention allant à l'encontre de ce circuit, comme le fait de le supprimer, car pour moi Spa devrait toujours rester au calendrier, notamment à cause, ou plutôt grâce au fait qu'il soit très apprécié des pilotes, car je pense que c'est eux qui doivent juger de la qualité d'un circuit, et non pas deux ou trois personnes assises derrière un bureau, à compter leurs petits millions en se fichant totalement du sport, comme Bernie en effet, mais comment avez-vous deviné? Voilà pour mon premier coup de gueule de cette émission, qui n'était d'ailleurs pas prévu. Moi, personnellement, je lui donne entièrement raison.
Entièrement raison. Voilà.
Voilà. Je confirme que je n'aime pas cette merdasse qu'ils nous ont mis au bout. Voilà. Même si c'est pour moderniser le circuit, ce à quoi je suis très sensible, etc. Mais voilà, je suis désolé. Je ne peux pas. Voilà. Je préférais l'arrêt de bus. Je trouvais que c'était un enchaînement où on pouvait peut-être pas doubler des masses, quoique Schumacher y est arrivé. Mais on pouvait peut-être pas doubler des masses. Il y avait cette magnifique ligne de départ qui était en courbe où les derniers voyaient pas le feu rouge, fallait qu'ils aient des merdes. Voilà. Moi, je préférais l'ancienne version. Mais globalement, je l'avais dit, il me semble, dans l'émission de l'année dernière, c'est un circuit qui continue de faire rougir, des circuits comme Bahreïn, comme...
Exact.
Shanghai, etc. C'est un circuit qui est d'une qualité incroyable. La piste, elle est magnifique. Le décor est superbe. L'ambiance est géniale.
Il a une âme. Il a une âme, ce circuit.
Tout à fait. C'est aussi le fait qu'il soit vallonné un peu comme Interlagos aussi. Il a ça. Il y a une montée. Il y a... Non, non, c'est le problème des circuits qu'ils font maintenant, c'est qu'ils sont plats.
Ouais.
Ouais. Donc les qualifs, on va revenir vite fait. Fisichella en pole position, très surprenant.
Alors oui et non. Enfin, c'est-à-dire que sur toute la qualif, non, c'est clair que non.
Non, voilà. Ouais. Mais sur la performance d'ensemble de la chose, oui.
Oui, oui, voilà.
Surtout qu'il est pas le parmi les plus légers.
Non, non, non. Enfin, il est, on va dire, à l'année régulière. C'est-à-dire que oui, il est un peu plus léger que certains, mais je veux dire, comme d'autres, vraiment, c'est à la régulière. C'est ce qui rend vraiment le truc encore plus beau, quoi. C'est pas comme une pole d'Alonso cette année ou l'an dernier, quoi. Où souvent, ouais, c'était vraiment à vide.
Et qu'êtes-vous capable de me dire sur cette grille très particulière de Spa?
Bah, c'est la plus vieille de l'histoire de...
Ouais, mais il y a autre chose. Sur cette première ligne, même.
Bah, c'est deux Italiens, c'est pas la première fois, non?
Enfin, c'est peut-être pas la première fois, mais la première fois depuis longtemps.
Eh non, sans doute, mais c'est surtout les deux seules écuries qui n'ont jamais gagné le Grand Prix.
Exact.
Ah oui, effectivement, ouais.
Ouais.
Donc ça leur donnait quand même des ambitions. Bizarre.
Surtout que Toyota, je veux dire, il y a déjà eu l'expérience de Bahreïn, quoi. Ils auraient pu apprendre.
Et non, mais ça fait 7 ans qu'ils auraient pu apprendre.
Voilà.
C'est vrai.
J'ai l'impression qu'ils ont débuté la F1 l'an dernier, Toyota, quand on voit les
codes. En plus, parmi les 10 premiers, enfin, on va dire les 8, Trulli, il fait partie des plus lourds, hein.
Ouais, ouais, tout à fait. Moi, quand j'ai vu la grille et quand j'ai vu les poids des voitures, je me suis dit, avant la course, hein, je me suis dit, c'est Raikkonen ou Trulli qui gagne. Et après, étant donné que Raikkonen avait le Kers, je me suis dit, là-bas, ça va le servir. C'est même pour te dire, pour moi, quand il a passé Fisichella au restart, je me suis dit, bah, c'est bon, il a gagné. Ouais. Bon, après, je me suis fait un peu de cheveux blancs quand même.
Oui, oui, mais de toute façon, moi, je sais qu'il y a un de nos auditeurs qui nous a dit aussi ça, que, bah, je crois que c'est Iceman Air qui a dit que dès qu'il avait vu Fisichella, se faire déposer même par Kimi, c'est pas injurieux pour Fisichella, mais quand il l'a vu se faire déposer par Kimi, voilà, que la course était jouée. Moi, j'avais pronostiqué au concours de pronostics qu'on fait avec Enzo, j'ai gagné parce que j'ai pronostiqué.
Tu as gagné, exact.
Parce que j'ai pronostiqué Kimi et que j'étais sûr. Moi, mon vrai danger dans cette qualif, c'était que Barrichello était quatrième. Je croyais pas au rythme de course des BM, je croyais pas au Toyota. Voilà, j'y crois plus Toyota. Et Fisichella, je le voyais finir quatrième ou cinquième. Je voyais pas si bien finir, mais je voyais finir quatrième ou cinquième. Donc pour moi, c'était un duel soit entre Barrichello et Raikkonen. Quand j'ai vu Barrichello se planter, je me suis dit bon bah voilà, Raikkonen avec le Kers, il a plus qu'à passer. Et voilà. Et c'est ce qui s'est passé.
Alors là, la question, ouais, après, est-ce qu'il a conduit avec le coude sur la portière, hein, à la fenêtre ou pas? Ou est-ce que vraiment il pouvait pas le larguer?
Il y a quand même à la fin, il y a pas suffisamment de marge. Lui, ce qu'il explique, c'est que il a passé les durs. Ils auraient dû rester sur les durs apparemment, ou sur les tendres. Non, c'est les tendres. Il pensait qu'ils auraient dû rester sur les tendres plutôt que les durs, et que c'est là qu'il a pas fait le creux et que ça leur a coûté sur la fin.
Alors,
de la course.
Bon, c'est qu'une photographie à un point donné, mais au niveau des meilleurs tours, Kimi ne fait que le quatrième et Fisichella ne fait que le sixième. Donc c'est pas les meilleurs, et en même temps c'est pas non plus super éloigné l'un de l'autre. Hein.
Faut quand même dire que Fisichella est passé toute sa course derrière Kimi, donc il peut
voilà,
pas.
Voilà, le meilleur tour de Kimi, c'est 1:47.674. Et Fisichella, c'est 1:47.737.
Ouais.
J'ai lu aussi dans les déclarations de Kimi que sur la dernière partie de la course, il s'était mis à utiliser son Kers de façon défensive, justement.
Oui.
Et pas les utiliser au même endroit, quoi.
Voilà. Il a adapté son utilisation du Kers pour
contrer les éventuelles attaques de Fisichella.
Et aussi, je pense, économiser son moteur, parce que je pense que chez Ferrari, on commence aussi à regarder ce côté-là, même si les Ferrari sont pas les premiers pilotes concernés en ce moment.
Alors la suite de cette qualif?
Oui.
On peut noter que, enfin, les BM, quoi, c'est pas non plus tous les jours qu'on les voit cette année à ce niveau-là, quoi.
Ouais, très surprenant les BM.
Et comme toujours groupés.
Oui.
Souvent.
Pour faire original.
Et puis alors les Red Bull, ben un peu décevant, oui, parce que 8 et 9, là encore, on pensait qu'elles seraient comme bah, sur, un, efficace,
sur, un circuit, sur un circuit où on les attendait, ouais, c'est extrêmement décevant.
Ouais.
Elles sont même devancées par une Brown, celle de Barrichello.
Ouais.
Donc ouais, c'est pas très encourageant. Et c'est d'ailleurs le ce qui est inquiétant, c'est que Brown semble bien marcher, mais pas Button. Donc
Bah toujours le même problème hein, depuis plusieurs semaines. On voit bien Barrichello ça marche et Button ça marche pas.
Sinon sur la grille, qui voyez-vous l'autre hein?
Bah quand même Sutil, hein, 11e.
Ouais.
Il est passé en Q2, il est en tête. Il finit premier des non qualifiés en Q3, donc c'est pas mal quoi. Et j'ai une petite question parce que là je regarde Stat F1 pour voir la grille. Et je vois que Lucas Badoer est dernier. Bon, ça, jusque-là,
pas Lucas!
Pas de problème. Par contre, quand j'ai regardé le Grand Prix, quand ils ont passé la grille sur TF1, ils ont mis qu'il avait eu une pénalité. Il était marqué dernier penalty.
Ah bon?
Comme s'il avait besoin de ça.
Donc, soit c'est parce qu'ils n'ont pas osé mettre son temps, parce qu'il était tellement lourd. Pour pas lui faire trop honte.
Peut-être pour son accident qu'il a eu, parce que faut dans la
cul. Non, c'est vrai.
Ah. Il a eu. Il est sorti dans un bac à sable.
Oui. Très Q1, près de la... Oui, à la fin de la Q1, oui.
Et ça a notamment empêché Grosjean d'améliorer.
Donc il aurait été disqualifié pour ça.
Bah peut-être. Donc messieurs, avant de passer à la course, j'ai convoqué quelques amis avec moi et on vous a réservé une petite surprise. Oui. Voilà. Je fais des promesses, je suis un homme de parole. Je fais des promesses. Et ces promesses, messieurs, chers auditeurs, je les tiens.
Ah, il va nous chanter l'hymne d'Italie.
Oh non.
Fratellis, Italia, Italia, c'est l'espoir, c'est l'étro, digico, c'est città, la testa, dove la vita. Le porgerà chiuma che scava di Roma, io la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, nel municipio si è tinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma io la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò sì.
Merci. Merci, merci. Donc Jean-Pierre, je te remercie. Tu m'appelles après. On se fait une pizza, tout dans le genre. Pedro, Miguel, tout ça, on s'appelle aussi. Hein. Ouais. Salut les mecs. Donc voilà, je remercie.
Italien, hein, Pedro et Miguel.
Oui, je sais. Voilà. Mais j'ai jamais dit qu'il fallait être italien pour chanter l'hymne italien. Je ne le suis pas. Donc voilà. En dans la lignée de ce magnifique hymne, je pense que nous pouvons parler de la victoire de Kimi Raikkonen.
Belle victoire.
Belle victoire. Vous faire partager à propos de la victoire de Kimi Raikkonen un coup de gueule de Jérôme, qui nous a envoyé pendant l'émission sur notre mur Facebook, qui nous a dit bon courage pour l'émission qu'on était en train d'enregistrer. Et donc, Jérôme, nous te remercions. Hein, nous le remercions, messieurs.
Oui, d'ailleurs, on lui a répondu.
Ouais. Voilà. Donc, je vous lis son message. Les gens disent « Ah, mais oui, Fisico aurait pu gagner sans le Kers de Kimi. » Non, dit Jérôme, si le Kers n'était pas là, Ferrari ne se battrait sûrement pas avec Fisichella, mais plutôt avec Massa, Hamilton ou Alonso. Pour moi, sans le Kers, les grandes écuries connaîtraient certainement beaucoup moins de problèmes, alors qu'on arrête de nous dire que la Ferrari a gagné contre la Force India à l'aide du Kers seulement. Donc, voilà, on dit que la victoire de Kimi, elle est due au Kers, etc. Alors, c'est vrai que sur la course... Oui, puisque la Force India a semblé quand même intrinsèquement plus rapide et la Ferrari, la McLaren, la vache, la Ferrari a semblé plus défensive.
Sort de ce corps, on...
Est-ce que, après, effectivement, sans le Kers, je pense que les écuries seraient allées dans d'autres directions et peut-être, peut-être que la Ferrari, la McLaren, la Renault n'auraient pas été aussi larguées que ce qu'elles sont cette année. C'est vrai, quand on prend les écuries qui ont développé le KERS pour l'avoir dès le début de saison, les KERS
ont payé cher. Hein.
Se sont gaufrés. Donc oui, c'est vrai que je partage assez l'opinion. Et puis de toute façon, il y a peut-être des vainqueurs moraux dans des courses, mais le vainqueur, c'est celui qui passe la ligne en premier. Et qu'on arrête de nous dire, voilà, un pilote, il gagne une course, il termine premier, il a gagné la course, tout simplement. S'il n'y a pas eu de d'acte déloyal en course, comme ça a pu être le cas l'an dernier selon certains, là, il n'y a pas eu d'acte déloyal. Il avait le KERS, c'est un bénéfice dont bénéficient certaines écuries depuis le début de saison. On va quand même pas reprocher aux écuries d'avoir le KERS, alors qu'elles ont quand même claqué du pognon pour l'avoir et qu'on le demandait.
Et elles en ont bien chié, surtout avec.
Ouais, ouais. À fond. Toujours à propos de la victoire de Kimi, remarque d'Iceman Air qui nous dit: à propos de ce départ, j'ai lu sur certains blogs que certains se plaignaient du fait qu'il soit parti à l'extérieur pour gagner des places, mais étant donné qu'il a pris un chemin plus long, il n'y a absolument rien à dire, et bien au contraire, il a simplement été plus malin et bien lui en a pris. Un très très grand bravo donc à Kimi Raikkonen, qui mérite amplement cette victoire après un an et demi de disette et qui marque à mon sens le retour de la Scuderia.
Oui.
À propos de la Scuderia, je pense qu'ils vont garder Kimi d'une part, car son contrat coûte cher, et surtout car il vient de leur prouver sa valeur. Le virer reviendrait à se tirer une balle dans le pied, car comme l'a dit Lafitte, s'il le vire, il n'aura aucun mal à se recaser dans une autre écurie et deviendra alors un féroce adversaire pour Ferrari. Donc, de cette remarque d'Iceman Air, j'aimerais tirer deux questions. D'abord, est-ce que vous pensez effectivement le fait qu'il soit parti au large au premier virage soit puisse faire polémique?
Bah non, enfin il a pas coupé de chicane, là c'est vrai que ça peut être gênant. Là en effet il est sorti au large. Bon, c'est comme quand parfois on voit des pilotes qui sortent au large, puis tu sais, il y a de l'herbe. Bon là il y en a pas, il y a du bitume. Il a été surtout très malin, c'est-à-dire que il a pris sa trajectoire à l'extérieur. En faisant ça, il a pas eu besoin de freiner. Je veux dire, il était sur sa lancée quoi. Mais il restait quand même hors piste. Donc ça veut dire avec une piste que notamment au niveau de l'adhérence qui était pas non plus on n'est pas sur la piste, justement.
Voilà.
Donc non, pour moi, il n'y a rien de choquant.
C'est pas une manœuvre qui est nouvelle à Spa. Hein.
En plus,
voilà, c'est ça le truc. C'est que, même d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'année dernière, je crois que des pilotes du genre Hamilton, etc., étaient aussi passés au large. Donc, voilà,
c'est pas évident. Hein.
Le premier virage à Spa est tellement serré, tellement difficile.
C'est un des pires premiers virages. Hein.
Voilà, si les organisateurs, ils ont prévu ce grand dégagement, puis c'est pas nouveau, hein, ça fait des années qu'il est là ce dégagement, qu'ils ont pas mis un bac à sable ou qu'ils ont pas mis de l'herbe, c'est parce qu'ils savent très bien que le premier virage est imprenable à 20 voitures sur la piste. Donc voilà, c'est pas le seul d'ailleurs, hein, puisque je crois derrière il y a Trulli je crois que c'est Trulli qui passe aussi à l'extérieur. Donc voilà. Deuxième question, est-ce que d'après vous la victoire de Kimi Raikkonen signifie le retour de Ferrari au premier plan?
C'est difficile à dire parce qu'il faut doser la part de chacun. C'est vrai qu'on est à Spa, on sait que Raikkonen lui-même est très fort à Spa.
Ouais.
Donc il y a ce bonus là qui est quand même indéniable. On voit quand même que la Ferrari est revenue.
Il est quand même sur 3 podiums d'affilée.
Voilà,
hein.
C'est unique.
Ouais.
En tout cas, on sait maintenant...
Du moins 4 si tu comptes une Massa même en Allemagne. Hein.
Exact. C'est une équipe qui a le niveau pour faire des podiums. Ça, je pense que c'est assez clair. Maintenant, faut savoir où est la part du talent de Raikkonen à Spa.
Ouais, et puis bon, enfin, faut quand même aussi compter sur les contre-performances.
En plus,
de Brown, moi, je reste sur Barrichello. Il a foiré son départ, mais je pense que si Barrichello avait été encore en course, il aurait pu être un adversaire peut-être plus difficile même que Fisichella. Et puis bon, bah voilà, il y a la contre-performance des Toyota qui l'aide sur le Grand Prix. Voilà, comme vous dites, ouais, une équipe pour avoir le podium. Maintenant, retour au premier plan, je reste dubitatif.
Je pense que...
En plus, c'est passé qu'une semaine hein, entre Valence et Spa, ouais. Donc les évolutions, c'est pas ça, quoi.
Je pense que le KERS va les aider quand même à Monza également.
Bah, ouais. Comme on disait
pour McLaren ou Ferrari.
Comme on disait pour Red Bull, c'est-à-dire que ce sont des circuits assez rapides avec des longues lignes droites. Donc le KERS, oui, ils peuvent en profiter à fond. Hein.
D'ailleurs, je vous rappelle, messieurs, j'avais pronostiqué Raikkonen.
Ouais.
Gloire m'en soit rendu. Le mec qui se jette des fleurs.
Gloire m'en est rendu.
Troisième question à tirer de la remarque d'Iceman Air. Est-ce que d'après vous, cette victoire va changer quelque chose au statut de Raikkonen chez Ferrari?
Difficile à dire. Même si c'est vrai que, enfin, ça fait, apparemment, même chez Ferrari, ça a fait réfléchir.
Ouais.
Justement, cette possibilité qu'ils partent, même qu'ils se fassent virer, hein, parce que c'est quand même ça qui risque de se passer, c'est compliqué, quoi.
Mais je pense que son statut n'a pas changé. Il est toujours capable du meilleur comme du pire.
Ah oui, ça, non, mais Kimi n'a jamais changé, en fait.
Non, non, tout à fait.
Moi, je dirais, moi, personnellement, Kimi Raikkonen ne m'a pas ébloui sur la course.
Moi non plus.
À part son départ.
Ah, voilà, il y a le départ,
qui
et puis après.
Départ, voilà. Mais à partir de là, c'est vrai qu'il est, il est en rivalité avec Fisichella, qui en plus, Fisichella se pose comme la question dans sa tête, attention, si tu vas le titiller de trop près, tu vas oublier ton baquet chez Ferrari potentiellement, tes négociations, t'auras même pas négocié parce que t'auras privé Ferrari d'une victoire. Derrière, les mecs n'ont pas pu rivaliser, il perd Barrichello, il perd Trulli, il reste les BMW qui n'ont pas été super cinglantes, même si elles ont bien fonctionné. Voilà, le danger aurait pu venir de Vettel s'il y avait eu un peu plus de tours. Mais en dehors de ça, Kimi Raikkonen n'a pas été impressionnant. Il n'a pas changé. Je pense qu'il n'a pas changé la donne chez Ferrari. Il n'a pas montré qu'il se sortait les doigts du cul comme peut montrer un Massa qui se sortirait lui aussi les doigts du cul. Donc voilà.
Tu l'aimes cette expression?
Oui, je l'aime. D'ailleurs, je vois que sérieusement, je l'ai retrouvé dans des messages, notamment de Stéphane. Donc voilà, j'aime bien cette expression. Voilà, moi, Kimi, en plus, comme dit Iceman Air, il va se retrouver chez qui? Chez Brown Grand Prix? Oh. Chez Toyota? Chez un repreneur de BMW? Moi, je suis désolé, mais l'année prochaine, s'il se retrouve pas chez McLaren, chez Red Bull,
Williams.
Peut-être chez Renault, peut-être chez Williams. Je vois pas ce qu'il va aller briguer comme place. Oui, il va briguer des points, mais oui, Kimi est un bon pilote. Mais si c'est pour avoir un veau comme il a cette année chez Ferrari, enfin comme il a eu au début de saison, et qu'il fait pareil, je vois pas comment il va se motiver avec une Toyota ou avec une Brown qui sera pas capable de faire la 5e ou la 6e place.
Et on sait que c'est pas lui qui va aider à la mise au point.
Ah bah non, ça c'est certain. Donc voilà, oui, c'est sûr, il sera dans une autre équipe, ça sera autre chose et ça sera toujours un prétendant, mais ça sera pas une menace, surtout chez Ferrari, ils ont Alonso et Massa, un Massa en pleine forme en ce moment avec le sérieux de Massa, il est peut-être moins génial que Raikkonen, mais un Massa en pleine forme fait largement plus de résultats en ce moment que Raikkonen.
Et puis méfions-nous de l'effet Niki Lauda, hein. Ah, qui sait, Massa en 2010.
Oui.
Iceman Air, tu remarqueras que moi, j'ai rien dit. Moi, je trouve qu'il a fait une très belle course. Il mérite amplement sa victoire. Moi, il m'a ébloui. J'espère qu'il restera chez Ferrari.
Ah, je sais, je vous l'ai dit, il s'est excusé après la course.
J'en fais trop, là. Non, ça se voit.
Non.
Non, c'est bon.
Mais tu sais...
C'est pas bon.
J'ai un argument pour toi, Enzo.
Oui.
C'est drôle parce que je faisais le ménage dans l'ordinateur cette semaine et je suis retombé sur un vieux truc que j'avais enregistré il y a quelques années. Et je me suis dit, c'est trop fort, faut que je vous le passe.
Attends,
oula, il y a quelques années.
Il y a quelques semaines.
Ah, quelques années.
Quand même.
Il y a quelques heures même. Yes. Voilà, je vous dis rien de plus.
Il s'appelle Kimi, je suis fan de lui. Il met la gomme, se fout des autres, garde toujours la tête haute. Même si je sais qu'Alonso va le remplacer. Kimi, il s'appelle Kimi. Je suis fan de lui. Quand sur son yacht je l'ai aperçu à Monaco au coin du cru, je lui ai seulement dit, je te veux chez Ferrari. J'étais orphelin de la F1, Joumi avait passé son chemin et Kimi l'aimait bien. Il m'a dit, viens prendre un café. Oui, je sais, ça peut étonner. J'en ai rêvé, j'en ai pleuré. Oh, Kimi, s'appelle Kimi. Moi je n'aime que lui. Il y en a qui pensent qu'il trouve trop de fric, qu'il ne fait plus tourner la boutique. Il y en a même qui disent qu'il ira faire du rallye tous les ans, un week-end sur deux, en allumant parfois ses pneus. Il m'a rendu heureux. Oui, je sais, il aime la vodka, mais ne prend jamais de glaçon. Il me fait perdre la raison. Et Kimi, il s'appelle Kimi. Je suis fan de lui. Il met la gomme, se fout les autres, garde toujours la tête haute. Même si je sais qu'Alonso va le remplacer.
Alors bon, tu donneras tes couilles à Enzo comme ça, pour ascenseur comme des balles de golf.
Prétentieux, c'est pas assez gros.
Hey, Richard Gasquet et Nadal jouent actuellement avec, alors hein.
Et je sais bien ce que je dis, Gasquet a du mal à les voir, donc il perd.
Donc voilà, c'est un but que...
qui date, oui, il y a pas longtemps.
Oui.
Oui, voilà, de cet après-midi.
Tiens, d'ailleurs, il a gagné, Nadal.
Ah, j'ai cru que c'était Gasquet qui avait gagné.
2-6-3.
Oh la vache. Mais c'est normal, Gasquet était tout le temps sur la ligne blanche.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, c'était un vieux fond de placard. Mm-hmm. Vous retrouverez aussi le clip, hein, je vais sans doute en faire un, donc vous retrouverez le clip sur Dailymotion, sur WAP. Céline, si tu m'entends.
Oui, il y a un petit air hein, dans la voix quand même. Et tes parents s'inquiètent pour toi ou pas?
Mon père, oui. Commence à s'inquiéter, mais ma mère m'a dit en voyant la vidéo, elle m'a dit ça me rassure, t'as de l'avenir mon fils. Voilà. Je sais pas s'il faut bien prendre ou pas, mais je vais dire que
ta mère, ta mère le savait quand même.
Non, elle a écouté le début, elle a écouté la vidéo, mais ma mère et la Formule 1, ça fait 3, peut-être même 4. Et ça racine carré. Donc, après ce moment d'émotion intense, on passe à la deuxième place de Fisichella, qui moi personnellement m'a beaucoup surpris. Je pensais pas qu'il serait aussi près.
Ah oui, oui, on...
Voilà. Moi je le voyais 4, je voyais 5 6e, ce que je disais tout à l'heure, je le voyais pas mieux que ça.
Et ben moi tout à l'heure, je fouillais dans mon ordinateur et j'ai trouvé rien.
Donc Fisichella.
Mais il a tout le temps été dans le rythme, c'est ça qui est impressionnant quoi. Alors qu'en effet, on s'attendait, oui, à ce qu'il soit dans les points, mais bon, là, deuxième, comme ça...
C'est un mystère, ce mec, quand même. Je veux dire, il a fait des exploits chez Jordan, sa première victoire. Quand il est dans des petites écuries, il fait des beaux trucs. Et puis, bon, les années qu'il a passées chez Renault avec Alonso. Bon, après, maintenant, on connaît le management selon Briator, donc...
Ouais.
Mais c'est dommage. C'est un peu...
Peut-être un talent gâché, ouais.
Ouais, c'est un peu l'alésie des années 2000, quoi.
Mais moi, je me faisais la remarque.
Ça m'étonne que t'aies pas rebondi là-dessus, toi.
Non, non, j'avais pas envie de taper sur l'alésie, tu vois. Non, non, mais moi, Fisichella, ce qui m'énerve un peu, c'est que voilà, ça fait deux grands prix qu'on parle de lui à la Scuderia. Et ça fait deux grands prix, alors qu'il était pas inexistant, mais qu'il était quand même dominé par ce titre depuis le début de saison.
Attends, ça laisse-moi deviner la suite. Ça fait deux grands prix qu'il s'est sorti les doigts du cul.
Voilà.
un peu comme Kimi quand on a dit que Schumi allait revenir, quoi.
Donc voilà, ces pilotes-là, lui ou Kubica, ou pareil, Kubica qui commence à se mettre à bien rouler parce qu'il sait qu'il faut qu'il trouve un baquet. Voilà, ça me saoule un peu, quoi, les mecs. Vous donnez-vous à fond à l'image d'un Alonso, à l'image d'un Hamilton, à l'image d'un de qui d'autre, d'un Sutil. Voilà, donnez-vous à fond.
D'un Rosberg.
Mmh. Donnez-vous à fond. Voilà, il y en a marre quand même des pilotes qui une course sur deux font rien parce que voilà, ils ont pas envie. tout simplement. D'ailleurs, je mettrais peut-être un drive-thru contre ces mecs-là, tiens, c'est pas con. Ensuite, on peut parler de Vettel.
Il s'en sort bien, hein.
Ouais, qui remonte en plus très très fort sur la fin de course. Mais bon, qualifié loin, donc voilà, le boulot est plus dur. Et puis je pense qu'ils ont aussi essayé de ménager la monture, hein, parce que c'est quand même un gros circuit, il lui a plus beaucoup de moteur. Ouais.
Mais en même temps, enfin, c'est ça le problème, c'est qu'il a besoin de beaucoup de points. Donc,
Ouais, voilà. Enfin, pour le moment, il fait de la bonne opération de week-end, puisque Button n'est pas dans les points. L'inconvénient, c'est que Barrichello en marque 2. Il a gagné la dernière fois, donc voilà. Est-ce que... On parlait de Barrichello. Est-ce que Vettel avec Barrichello pourrait pas être les deux bourreaux de Button, le dépasser au classement et puis se régler leurs comptes respectivement en fin de saison?
Ça, c'est pas impossible. Hein.
C'est pas impossible, ouais.
Ensuite, sur la course, revenons vite fait sur Kubica. Kubica et Hitfeld, les BM.
Comme d'habitude, voilà.
Solide, tir groupé, voilà. Transparent. Et qui Kovalainen, on va pas retaper sur l'ambulance.
Kovalainen, il part quand même 15e. Hein.
Oui, enfin, avec les abandons qu'il y a eu devant, avec le Kers, avec une McLaren qui a quand même montré des belles choses aux essais. Il est à 21 secondes du 5e Nick Heidfeld. Pas transcendant, Kovalainen.
Donc, Yannick est en train de nous dire que Kova... Il finit dans les points, mais il a le Kers, c'est normal, quoi. Mais par contre, Raikkonen, il a gagné, c'est pas grâce au Kers, hein.
Non, je dis que
c'est pas ce qu'il a dit.
Non, j'ai pas dit que
Raikkonen.
Bien évidemment, Raikkonen a gagné parce qu'il a le Kers. Mais voilà, justement, là, c'est un pilote qui a le Kers, il pourrait comme se sortir les doigts du cul. c'est bizarre, aujourd'hui, j'arrête pas de la sortir. Généralement, je la sors qu'une fois, et là, j'arrête pas.
C'était une vulgarité. Je sais pas quelqu'un qui c'était tout à l'heure qui disait que mes dessins étaient jamais vulgaires, mais là le SAV il est d'une vulgarité.
Oh non, doigt du cul c'est une expression. Voilà, je sais pas. Moi j'ai pas d'équivalent non vulgaire. Je suis désolé. Voilà.
Bouger quoi, enfin se réveiller.
Oui mais
se couer.
Non, je trouve pas. D'ailleurs Froissart utilise cette expression lui aussi, se sortir les doigts du cul.
Non, ouais. Il dit pas ça.
Oui, sur l'un de ses derniers articles il a dit, il s'est enfin sorti des doigts.
Il l'a écrit, il le dit pas, il l'écrit.
C'est oui, différent. Mais moi je le dis, moi je suis franc, moi, messieurs. Rubens Barrichello, 7e.
Il
a eu du bol de marquer 2 points quand même.
Ouais. Il a quand même bien merdé son départ. Hein.
Ah oui, c'était magnifique. Ah ouais. Il a failli même foirer celui de Kimi.
Oui. C'est comme ça qu'on a vu du premier coup Kimi, c'est Kimi déboîtant. C'est même pas un départ, il a fait un déboîtement, il a fait une queue de poisson.
Hein. Voilà. Après Nico Rosberg, 8e.
Mais encore une fois dans les points. Hein. Ouais, même si c'est peut-être pas le nombre de points qu'il aurait pu.
Je dirais même là pour le coup, moi il m'en a collé une petite parce que j'ai vu les essais et les Williams c'était mais à la ramasse totale. Elles accusaient des dixièmes et des presque même parfois des secondes de retard sur les autres. Et lui, peu à peu, il a grappillé ses terrains, il est arrivé en qualif, il s'est qualifié en Q3 et tout, il est allé chercher ses trucs, et en course, pareil, il fait une course solide. Non, pour le coup, moi je dis Rosberg, taille patron.
Ça fait combien de grands prix que je te le dis?
Ouais, mais faut pas non, et voilà, c'est toujours le truc, c'est que, on va pas non plus le dire à tous les grands prix, il y a à faire des courses, et là, il a transcendé la voiture.
Et pourtant, il a marqué qu'un point, là.
Et pourtant, il a marqué qu'un point. Mais là, il a transcendé la voiture. Alors que sur Valence, etc., c'est des pistes où théoriquement la Williams est à l'aise et qui a montré depuis le début de saison, depuis les années, que Williams sont à l'aise.
Donc non, mais sur les 6 dernières courses, il marque 15 points au total. Tu dis wow. Même je te dis une connerie, il marque 25 points sur les 6 dernières courses. Et là, il en marque un, tu dis, ouais, chapeau.
Non, mais c'est sur la prestation en course. Il y a des prestations où quand même, voilà, oui, c'est sûr, il roule, mais il fait rien de transcendant, où il est, je suis désolé, moi, il y a des courses, je vais pas dire il est transparent, mais c'est parce qu'on m'en parle que je le vois. Sinon, Rosberg, voilà, il fait une course normale. Mais là, je trouve, par rapport à ce que moi, j'ai vu en essai de la voiture, par rapport aussi à ce que fait Nakajima qui est 13e, il fait une super belle course. Voilà, je le dis.
Il faut quand même remarquer.
Et c'est justement pour ça que je préfère souligner les belles prestations comme ça qui, moi, voilà, me scotchent, que de souligner tous les week-ends, de dire, bah voilà, Rosberg, il a bien couru parce qu'il est resté cinquième, il est parti sixième, il a été cinquième, il a profité d'un bon dépassement ou dans le genre. Oui, hein, ça, c'est une course classique d'un pilote classique, normalement.
Pour info, quand même, quand on prend le classement général, les sept premiers ont tous gagné une course, sauf justement Rosberg, qui est sixième, quoi.
Oui, mais on sait jamais, peut-être qu'on va découvrir qu'il avait gagné à Singapour.
Non, mais a gagné une course cette année.
Mais non, mais je déconne. Mais ça viendra pas, Rosberg. Je crois pas, moi, Williams. Je suis désespéré de Williams. Williams, c'est le paradoxe. Alors, ça a été redémontré ce week-end. C'est le paradoxe. Ils sont plutôt bons sur les petits circuits. Par contre, sur les grands circuits, incapables de se réveiller.
Attends, ouais.
Non, mais c'est quand même un truc depuis plusieurs années. Ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre entre circuit lent, entre guillemets, et circuit rapide. Là où les autres arrivent à trouver l'équilibre, ils n'y arrivent pas. C'est un truc endémique chez eux depuis plusieurs années. Mais bon, je suis pas fan de Williams, donc.
Moi non plus, mais de Rosberg, si.
Mark Webber, oui, j'ai noté Mark Webber parce qu'on avait un coup de gueule d'Iceman Air contre l'homme à la sucette au stand qui a valu une pénalité à Mark Webber. Est-ce que l'homme à la sucette est responsable?
Oui.
Oui. Oui. C'est quand même la deuxième fois que ça arrive. Est-ce que c'est pas par hasard, tout simplement, l'équipe qui se met trop de pression et que voilà, on tape sur l'homme à la sucette, mais je pense que c'est peut-être aussi une ambiance générale où il pousse beaucoup trop. On parlait tout à l'heure de Newey qui poussait peut-être un petit peu trop la voiture dans ses retranchements. Peut-être que les mécanos dans leur ensemble jouent un petit peu trop avec leur voiture. Peut-être qu'aussi les moteurs, ça vient de là aussi. Hein. Peut-être qu'ils jouent un petit peu trop, ils sont pas assez prudents.
Ouais, puis bon, c'est con pour lui, quoi, ce drive-through, parce que justement, fondamentalement, le pilote n'est pas responsable dans ce genre de cas.
Bah, c'est toujours pareil, hein.
Voilà.
Sinon, on a parlé de Sutil en qualification, qui en course reste solidement 11e.
Oui.
J'ai sauté de Timo Glock, parce que bon, voilà, c'est Timo Glock, les Toyota ont été très décevantes. Sébastien Buemi, 12e, fait une bonne course solide, même si lui déclare qu'il a été handicapé par un débris de carbone qui se serait logé dans son aileron avant et qui l'aurait handicapé sur tout le premier tour. Nakajima, 13, Luca Badoer, 14e, on n'y revient pas.
Dernier de la course, enfin voilà. En piste. À noter qu'il y a 54 secondes entre le premier et le 15e.
Et une 42. Entre le 13e. Et une 42 entre le premier
et une 38 entre le premier et le 14e.
Non, moi j'ai une 42.
Ah, moi j'ai une 38.
Ah bah moi j'ai une 42, on va dire une 40.
Voilà.
Donc grosso modo, il y a quand même une minute, j'allais dire 1h40, 1 minute 40 entre Raikkonen sur Ferrari et Badoer sur Ferrari.
Voilà.
Potentiellement remplacé, je pense, au prochain Grand Prix. On en reparlera à la prochaine émission. Fernando Alonso abandonne pour un problème de roue. On a une question de Maël qui nous demande quelle est exactement l'origine de ce problème de roue. Est-ce que par rapport au choc, est-ce que c'est la roue ou la suspension qui a cassé?
Apparemment, ce que j'ai lu et indiqué, c'est que c'est l'axe de roue.
La suspension, si ça avait été la suspension qui avait cassé.
Oh, il aurait même pas roulé, je pense.
Il aurait pas fait un tour de plus, quoi.
Voilà.
La suspension, dès que ça prend un gros... Ça prend pas mal de coups, mais dès que ça prend un gros coup, surtout un coup latéral comme ça, il y a très peu de chances qu'il finisse le tour. Surtout, on retiendra de l'accident, c'est qu'ils ont retenu la leçon de la Hongrie, puisqu'ils ont réussi à changer la roue. Il est reparti avec une roue, mais la flasque ne tenait pas. Donc, ouais. Ils ont préféré lui dire, écoute, rentre, ça sert à rien. Donc, nouvel abandon pour Alonso qui sera.
Comme quoi ils apprennent.
Oui, comme quoi ouais. Ils apprennent. Ils se font peut-être aussi discrets ce week-end.
Ouais.
Trulli qui a abandonné aussi, qui finit donc 16e au classement pour problème de frein. Voilà.
Ouais, pour problème de démotivation, je crois.
Oui, c'est surtout ça. Ouais. C'est ce qui est revenu dans pas mal de messages que j'ai pas retenu parce que c'était des résumés de Grand Prix, etc. Mais voilà, gros problème de motivation et voilà, c'est décevant, mais en même temps, c'est tellement coutumier chez Toyota cette saison, enfin depuis des années, que ça en devient banal. Les quatre derniers du classement, Button, Grosjean, Hamilton et Alguersuari ont été pris dans un carambolage. Question simple, qui est responsable? On sait que c'est venu de Grosjean et de Button. Grosjean dit que lui était à l'intérieur et que Button l'a pas vu. Button a dit effectivement j'ai pas vu Grosjean. Donc il n'y a pas eu de sanctions qui ont été prises, un incident de course. Déjà.
Moi je dirais 50-50 entre les deux.
Voilà, c'est un moment où, où Button est, est à la bagarre avec Hamilton. Donc il n'a pas forcément à ce moment-là, surtout qu'il doit reprendre des places. Il regarde pas forcément dans son rétro. Grosjean, lui qui est un petit peu trop audacieux, bah passe à l'intérieur.
Oui, il a été un peu.
Oui, sur le coup il est audacieux. Hein. Donc voilà, Alger Suari, pauvre victime pour le coup, qui ne termine pas la course pour la première fois de sa carrière.
Ouais, enfin. Voilà.
Sa courte carrière.
À noter pour Button que c'est son premier Grand Prix qu'il finit hors des points de la saison.
Ouais. C'est d'ailleurs son premier abandon, je crois.
Son premier abandon, exact.
Juste avant de passer à la suite et à nos rubriques, j'aimerais vous faire entendre un petit message de Jérôme.
Il veut vraiment prendre notre place, hein.
Ah ouais, non, mais on a eu beaucoup de contributions audio assez sympas. Donc, c'est 0,5 bonus track. Voilà. Voilà.
Depuis 3 ans, c'est pas Jérôme, c'est moi ça. Les compos sont
beaucoup plus chiants qu'avant. Voilà, je voulais conclure avec cette chanson que j'aime beaucoup. Mais le Grand Prix de Belgique vient de faire mentir la dernière phrase. Désolé. Donc sinon, évidemment, je souhaite un joyeux anniversaire au SAV de la F1 en espérant être là encore dans un an.
Je me doutais qu'il y a quelqu'un qui ferait un jour une réflexion sur cette phrase.
Ah, mais tout ce qu'on dit peut avoir des conséquences importantes. Hein.
Alors je m'étais dit, il y a quelqu'un qui me fera cette réflexion là-dessus, et également à la fin où c'est Rubens ou Button, Coulthard ou Montoya. pourquoi je cite pas Raikkonen, Raikkonen, Hakkinen, Alonso, Damon Hill,
voilà.
Ou Vineux.
Voilà. Voilà.
Donc je préfère poser la question avant.
Comme ça c'est fait, vous êtes au courant. Oui, cette chanson était partisane.
Comme tout ce qu'on écrit. Bon, question quand même à CG, qui est un fan de Kimi et également...
Oh là là, j'entends me planter.
Iceman Air. Est-ce que vous avez vu que Kimi avait mis un nouveau casque?
Non.
Ah, il est encore sur une motif?
Non, il a repris son casque qui était tout blanc devant, non?
Oui, oui, ouais. Tout à fait.
Ah, celui de sa première année chez Ferrari?
Mais je me demande si ça fait la deuxième.
Non, de cette année-là, mais qu'il a mis pendant les essais hivernaux.
Ah oui.
Il y avait
oui.
Une version qui était assez blanche et une version assez noire.
Ouais, mais je me demande même d'ailleurs si c'était pas la version qu'il avait lors des essais, la première fois qu'il est venu chez Ferrari, le tout premier casque qu'ils ont montré. Ça n'a pas été le casque définitif parce qu'après il y a eu le motif noir et rouge.
En 97, c'était pas le même hein, qu'il avait déjà.
Qui ça?
Il l'a changé en 2007. En 2007 et 2010.
Oui, il a changé, oui.
Enzo est dans une autre décennie. Enzo, pour Enzo, on est en 99, Schumacher vient de se blesser.
Il le change quasiment tous les ans. Ah, il le modifie par touche.
Mais c'est parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé de mes 25 ans, c'est pour ça.
Donc, je voudrais vous soumettre un nouveau jeu.
Voilà.
Hey, un nouveau jeu. Le jeu de la vengeance.
Voilà.
Le jeu qui va faire mal. Le jeu qui sera là toutes les semaines. Parce que vous dites que j'y connais rien en F1. Et on a eu la preuve tout à l'heure que c'est faux. Donc c'est un jeu dont je vais vous faire écouter le jingle. Et après je vous pose la question.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question historique. La question que si tu réponds pas, t'es aussi bon qu'Yannick.
Donc voilà, vous savez ce qui vous attend. Donc messieurs, êtes-vous prêts pour la question?
Mm-hmm. Oui. Mm-hmm.
Donc comme d'habitude, pas de Google, mm-hmm. Même si je pense que là ça ne vous aiderait pas forcément parce que j'ai fait une intense recherche. Hein.
Faut bien être prêt.
Donc, Force India ce week-end au Grand Prix de Belgique a marqué ses premiers points en montant sur le podium. Mmh. 18 mmh. équipes l'ont fait avant elle, dont 3 qui n'ont participé qu'à l'Indy 500.
Ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les deux dernières équipes à avoir réalisé cet exploit.
Braun,
effectivement, à Melbourne, en Australie cette année, qui a signé ses premiers points en signant le doublé premier-deuxième.
Midland en USA 2005.
Non.
C'est pas Toro Rosso.
C'était pas Midland, c'était Jordan. Et Jordan...
C'était encore Jordan, ouais.
Non, Toro Rosso, non, ils avaient marqué
des points.
Non,
ouais, ils ont marqué des points avant, oui.
Attends, je vais réfléchir. Prost.
Non. Même si Prost est pas mal, hein, en durée de podium, mais ils ont marqué des points Grand Prix. Ils ont marqué, je crois, 2 points alors, dès leur premier Grand Prix, et après, ils ont fait un podium après.
Attends. Est-ce que tu peux nous aider avec la décennie, au moins?
Avec la décennie, c'est pas... Ce que je peux vous aider, c'est pas vous dire la décennie, mais c'est vous dire que un pilote actuellement présent en Formule 1 a signé ce podium.
Oh, bah c'est facile alors.
Ah, c'est facile alors.
C'était pas Jordan. Barr?
Ah non, c'était pas Barr.
BMW?
Non, pas BMW.
Sauber.
Ils ont marqué des points avant. Pas Sauber.
On va tous les faire. Hein. Attends, on n'a plus qu'un choix.
Essayez déjà de trouver le pilote. Si vous trouvez le pilote, vous trouverez l'équipe.
Bah, c'est forcément un vieux.
Oui, ça fait partie des vieux pilotes, ouais. Qui a d'ailleurs accompli 2 fois cet exploit dans sa carrière.
C'est Barrichello ou Button?
C'est Barrichello.
Stewart?
Donc, c'est Stewart.
C'est Stewart, ouais.
Donc c'est Stewart, effectivement, lors du Grand Prix de Monaco 97. Rubens Barrichello s'était classé deuxième.
Ah oui.
Et avait marqué les premiers points sur le podium
de Stewart. C'est pas là où il avait plu?
Oui, je crois.
Si.
Oui, où il avait fait un pas d'arrêt.
C'est là où on voit mes limites, hein, c'est que quand vous me demandez des questions sur les conditions météorologiques, là je le sais. Donc, bravo Shinji, hein.
Il a quand même fallu un peu d'aide, hein.
Et avant, c'était qui?
Alors avant, c'était qui? Tiens, avant, c'est une équipe que Enzo aime bien.
Jordan. Non.
Tu as bien aimé nous en parler cette saison.
Ah bah Lettonhouse.
Lettonhouse
90 avec Capelli qui avait fini deuxième. Avant ça, on avait eu
Grand Prix de France 90, ouais, c'est ça.
Voilà. On avait eu avant ça Williams en Allemagne 75 avec Lafitte qui avait fini deuxième.
Ah oui.
Après, c'est
en 74 en Suède. On avait eu Esquette avec un certain James Hunt troisième.
Ouais.
On avait eu Tyrrell en Afrique du Sud en 71 avec Stewart deuxième. On avait eu Lancia, qui n'a fait que 4 Grands Prix,
ah.
Et qui est quand même monté sur le podium. À Monaco en 55 avec Castellotti deuxième, et on a eu Maserati à Monaco en 1950 avec Louis Chiron troisième. À savoir que bien évidemment il y a des équipes qui ont marqué dès leur premier Grand Prix, hein, à savoir Alfa Romeo, Ferrari, Gordini, Mercedes, March, Wolff et Fittipaldi.
Pas forcément.
Oh, voilà. Ouais.
J'ai pas retenu le nom des 3 équipes qui ont fait l'Indy 500 seulement. Donc voilà, c'était le petit jeu. J'essaierai à chaque fois de vous poser des cols comme ça historiques pour voir si vous êtes aussi bon qu'Yannick.
Bah enfin, là oui.
Là oui. Ouais, voilà, là vous sauvez l'honneur.
Oh la honte.
Donc les faits marquants de la course. Je vous propose 2 faits marquants puis après on fait les nôtres.
Qui s'est gagné la dernière fois?
Ah oui, ça, qui c'est qui a gagné, tiens? Bonne question. www.savf1.fr.nf. Donc, nous avons le résultat suivant. Il y a eu beaucoup de votants.
43 000.
43 votants. 40... J'ai peur pour le résultat. Et je peux revoter, en plus. Mais je ne revoterai pas, je vais juste regarder. Nous avons 43 votants. Et j'ai l'honneur de gagner avec le retour discret mais remarqué de Badoer qui réunit 37% des voix. 33% des voix pour le problème au stand de Lewis Hamilton et la stratégie victorieuse de Braun Grand Prix ne réunit que 30%.
Bon, ça va, c'est pas très loin non plus. Hein.
Oui, mais il y a quand même 2 voix d'Enzo dedans. À noter qu'en plus, Shinji n'a pas voté pour lui.
J'ai pas voté pour moi.
Donc c'est
Shinji, il va falloir que je t'explique les règles du jeu.
Je vote 2 fois, poète, hein.
Surtout que si Shinji avait voté pour lui, on aurait eu 15-15.
Voilà.
Donc, est-ce que je vous lis les faits marquants qu'on a reçus ou est-ce que vous donnez vos faits marquants et on compare?
Ah
après
oui,
on va peut-être donner les nôtres.
On donne les nôtres, ok. Donc, Enzo.
Ah, c'est moi qui commence. Fait marquant. La pole position et la deuxième place de Physico.
Donc, la pole, le résultat d'ensemble de Physico.
Voilà.
Ok, Shinji.
Le retour en grâce de Kimi.
Le retour en grâce de Kimi.
Ça gagnera jamais, ça.
C'est même étonnant que tu ne l'aies pas choisi, Enzo. Moi, j'hésite, parce que c'est vrai que, n'empêche, ce Grand Prix était passionnant, donc on a eu du biscuit, comme on dit. Je dirais... Vettel ou Rubens? Ou Button? Je dirais le premier abandon de Button.
Rubens ou Button, Taro Montoya.
Alors, le premier abandon de Button.
Mais face à toi, ils ne font pas le point.
Avant de vous donner le reste, messieurs, je vous propose, c'est vous qui décidez. Est-ce que on ne compte que nos trois faits marquants ou est-ce qu'on inclut les faits marquants qu'on nous a proposés? Ah, ça va, vous prenez le risque qu'il y ait des faits marquants qui se recroisent.
Que ceux qui sont différents.
Ouais, voilà, s'ils sont différents, tu les cites tous, et puis ceux qui sont différents, ouais, pourquoi pas les inclure?
Ok, donc, on en a eu deux.
Ah, bon, ça va.
Alors, je vais vous laisser deviner celui de Iceman Air.
Même que c'est
Timmy.
De retour Timmy et de Ferrari, ok. Et nous avons eu le fait marquant de Maël qui était le départ plutôt mouvementé.
Oui, c'est vrai, vous pouvez.
Donc on proposera à nos auditeurs d'aller sur le site savf1.fr.nf et de voter soit pour le premier abandon de Button pour mon compte, le retour en grâce de Kimi pour le compte de Shinji et d'Iceman Air, le résultat général de Physico pour Enzo et le départ plutôt mouvementé de Maël. Ça vous va, messieurs?
Très bien.
Très bien.
On passe au classement de la course. Et bah, puisqu'on nous a préparé le travail, je vais vous dire ce que nous a préparé Maël, puisqu'elle nous a proposé de faire le classement de la course. Et après, on discutera si on lui fait confiance ou pas.
D'accord.
Donc Maël nous a donné d'abord 5 points. Donc on rappelle, on donne 5 points, 3 points, 1 point pour notre podium moral de la course, avec le classement qui est mis à jour, je tiens à le dire.
Ouais, il est mis à jour.
Donc, Maël propose 5 points pour Kimi Raikkonen pour sa belle victoire et la première de Ferrari de l'année. Et aussi, pour une fois, il était heureux sur le podium pour sa victoire. Et effectivement, ça mérite 5 points. 3 points pour Fisichella pour l'ensemble de son week-end, pole plus bonne seconde course. Je pense qu'elle va voter pour Enzo. Et 1 point pour Alonso sur son départ, 14e à 9e, et pour sa première partie de course où il est 3e avant son ravitaillement et 12 son abandon. Donc, le classement Raikkonen, Fisico, Alonso, est-ce qu'il vous convient?
Non.
Non. Je sens le coup qu'il va mettre Fisico avant Raikkonen,
mais
et
oui.
Il va mettre Alonso.
Mais oui. J'ai mis Fisichella avant Raikkonen.
Moi, j'avoue que je suis aussi tenté de mettre Fisichella avant Raikkonen. Pas question de Kers ou pas Kers, mais voilà, la prestation de Physico me...
Complètement.
Bon, allez, ça me dérange pas de mettre Physico 5 si on met Raikkonen 3.
Voilà, donc on inverse, on met Physico 5 points, Raikkonen 3 points. Donc ça lui fera 6 points, il va remonter au 6e rang, tout seul, avec 6 points. Non, même pas, ça fait 8 points, donc il va remonter ex aequo avec Hamilton. Oh la vache. Raikkonen va remonter juste en dessous de Physico avec 7 points. Et à qui donnons-nous le dernier point?
Vettel.
Alonso. Maël propose Alonso. Est-ce qu'on le laisse à Alonso déjà?
Non.
Moi, je suis assez d'accord pour ce que s'apprête à dire Enzo.
Vettel.
Ouais, moi il m'a bien tué sur la fin de la course là.
Ouais,
ouais. Honnêtement, moi je pense qu'il s'il restait quelques tours à la fin, ça sentait le roussi.
Mmh. Ouais, donc, Vettel.
Vettel.
Mmh. Bon, c'est un podium pas très original, mais.
Ah, c'est le podium.
Non, mais bon, voilà.
Sens inverse.
Voilà.
Donc voilà, donc nous avons petit changement en tête puisque on a Button 21 points et Vettel qui remonte avec 17 points. Wow. Et la foule est en délire, messieurs, dames. Nous avons Raikkonen qui remonte donc à la 6e place avec 7 points. Et Fisichella qui remonte à la 4e place ex aequo avec Hamilton. Voilà, voilà.
Voilà, voilà.
Même pas la 5e place, que je dis. Donc voilà, le podium sera mis à jour un jour ou l'autre sur le On va y réfléchir. Est-ce qu'on fait les podiums du championnat? Je pense que l'émission a été longue.
Oui, non.
Voilà, on va se dispenser des podiums du championnat. Ça te dérange pas, Shinji?
Non, on peut juste rappeler qu'ils sont plus que 8 à pouvoir être titrés.
Oui, d'accord. Chez les pilotes et chez les constructeurs?
Chez les constructeurs, oh,
il
5.
A pas préparé.
5, ok.
Les drive-thru?
Oui, les drive-thru, oui, tout à fait.
À moi.
Alors, drive-thru, vas-y, Enzo.
Eh ben moi, mon drive-thru, c'est contre le patron de Renault Sport.
Oh non, merde!
Qui met en doute Force India sur leur performance.
Eh ben, je vais vous lire ce qu'a écrit Iceman Air. Et comme ça, on verra que c'est effectivement un avis partagé. Mon drive-thru sera lui dirigé contre Bernard Rey, le patron de Renault Sport, pour avoir clairement laissé entendre au micro de Denis Brognard qu'il soupçonnait Force India, Toyota et BMW de tricherie. Non mais pour qui il se prend celui-là? Et c'est quoi cette façon d'accuser les gens sans preuve? Sous prétexte qu'ils sont meilleurs que nous, alors ils ont forcément triché. Non mais on est où là? Dans une cour de récré? Je trouve cela choquant, c'est révélateur d'un manque de fair play incroyable et d'une mauvaise foi aberrante. C'en est même dégueulasse de cracher sur les efforts d'une si petite équipe qui, elle, a travaillé jour et nuit pour arriver où elle en est et qui le mérite largement. Ce mec-là est jaloux et n'a rien à faire à la tête d'une écurie comme Renault et Fintim.
En plus, vous avez vu, il le dit, mais sans le dire explicitement. Oui, les équipes qui sont devant et tout. Puis alors, avec le super argument, hein, puisqu'il semblerait que pour le patron de Renault Sport, le circuit de Valence et le circuit de Spa, c'est identique. Donc, il devrait y avoir les mêmes résultats. Parce que c'est à peu près ça qu'il nous a expliqué. Hein.
Ouais.
Je sais pas, moi, j'ai pas regardé les fins de la une.
Voilà.
Non, oh, c'était pendant le tour de chauffe.
C'était pendant le tour de chauffe, oui.
Ah oui, alors tiens, j'en profite juste 30 secondes. Ce que je lui ai promis. Je dédie cette émission à mon père. Voilà, j'ai pas pensé à le faire avant, mais je lui dédie.
Pourquoi?
Parce que malheureusement, il y a eu une panne électrique dans mon immeuble. Donc, mon antenne râteau n'était plus connectée, donc j'ai pas pu voir le Grand Prix sur ma télé. Et heureusement, mon père a bien voulu m'accueillir pendant le Grand Prix, et Dieu sait qu'il a subi ce Grand Prix, puisque Kimi a gagné, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs.
Eh bien, je t'invite à aller voir tous les prochains Grands Prix chez lui. Ça porte chance.
Donc, mais vous savez les garçons, je suis tenté, vu que vous êtes à fond dedans, je trouve, je suis tenté de dire, voilà, un drive-thru pour tous les deux, un drive-thru collectif pour tous les deux.
Mais pour parce que autres... c'était vraiment très choquant d'entendre comme ça... Le patron de Renault Sport, en plus vraiment comme ça, tomber sur la soupe alors qu'on se prépare à regarder la course, puis porter ses accusations, quoi. C'est grave.
Ouais.
C'est des accusations très graves qu'il fait.
Ouais. Surtout que comme on l'a dit l'après-midi même.
Oui, voilà.
Une grosse bombe est sortie. Et comme l'a dit Enzo, est-ce que c'est pas un moyen pour eux de
écran de fumée.
Voilà.
Ouais. Je pondérerais juste ce qu'a dit X-Men Air. Quand il dit parce que l'écurie, eux, ils ont bossé et tout ça, il y a aucun doute sur le fait que chez Renault, ils bossent aussi. Hein.
Oui, non, mais voilà, mais c'est vrai que dans le fond, c'est quand même justement parce qu'ils sont à la tête d'une équipe qui a bossé.
Oui, tout à fait.
Allons pas taper sur notre équipe qui bosse.
Non, mais en plus, ça décrédibilise quoi de sortir des paroles comme ça.
C'est vrai.
Donc même par rapport à l'équipe Renault, voilà.
Ah, je vous sens super remonté.
Oui.
C'est dommage que j'ai raté ce passage quand même. Moi j'ai pas de drive-thru. Ah, j'ai oublié mon petit jingle. Oh, bah, je vais quand même vous le faire écouter. Je le mettrai après au montage, mais je vais quand même vous le faire écouter.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement c'est pas bien.
Ouh, c'est nul. Voilà.
Attends. Yannick, t'as pas eu de drive-thru?
Deux. Non, mais c'était juste parce que je viens de repenser, j'avais pas mis le truc, donc ça, je le mets ça, après.
Voilà.
Non, mais toi t'as dit
que... Moi, j'en ai pas, c'est ça le problème, c'est que...
Non, mais attends, tu vas en trouver un. Tu vas mettre un blanc.
Mais même un truc à la con. De toute façon, c'est la spécialité, les drive-thru à la con.
Mais tu vas...
Je vais être obligé de me mettre une musique d'attente. Enzo, pour se venger, tu as le droit d'introduire une musique d'attente.
En attendant que Yannick nous trouve un drive-thru of the weekend, voici une petite musique d'attente.
C'est cruel. Il faut que j'en trouve un. En plus, j'en ai eu un tout à l'heure dans la tête. Merde. Oui, faut
comme Yannick n'a toujours pas trouvé de drive-thru au week-end, nous vous mettons une deuxième.
Vite, Yannick, trouve-en. Vite.
Toute l'équipe du Estafé se sort les doigts pour écouter votre attente. Vous êtes bien au SAV de la F1. Votre temps d'attente estimé est à 15 minutes environ.
Ah merde.
Surtout, ne quittez pas.
Ah, je suis perdu dans mes feuilles là, je sais pas quoi dire. Eh ben oui.
Ne quittez pas, un correspondant va vous répondre.
J'en ai un.
Oui, Yannick.
Oui, j'en ai un. C'est pas celui que je pensais au départ, mais c'est pas, de toute façon, je l'ai pas retrouvé, donc, voilà. C'est lui, comment je gagne du temps, là, comme ça, en discutant, etc., j'ai le temps de recherche et tout. Donc, non, je voudrais mettre un drive-thru vachement original, à Toyota.
Hey, il en a un, c'est déjà ça.
Non, mais le pire, c'est que j'en avais un autre qui était super bien, et donc voilà, je trouve plus.
Ok, c'est bien celui-là.
Non mais voilà, à Toyota, c'est une équipe que j'aime beaucoup et enfin que j'aimais beaucoup et avec lesquelles j'avais repris un peu d'espoir en début de saison et qui malheureusement me déçoit beaucoup cette saison. Voilà, ils ont une belle opportunité et voilà, ils paniquent complètement, ils se mettent à plus rien faire, ils visent même plus les points. On peut pas progresser si on n'acquiert pas ce sérieux et ce truc de se dire à chaque fois qu'on fait un mauvais résultat, on se décourage, c'est pas la peine. Et je dirais plus que contre l'équipe, je taperai sur Toyota, le constructeur, qui n'est pas très clair avec son écurie en ce moment, et qui fait donc que peut-être ils sont tous en train de se mettre la pression à l'intérieur de l'équipe en se disant faut qu'on fasse des résultats, et que quand ils font pas de résultats, les mecs s'effondrent, perdent totalement le moral, et je pense que la gestion japonaise a ce grand défaut de ne pas être suffisamment sérieuse envers la Formule 1, et de placer ses ingénieurs et ses équipes dans des situations pas tenables.
Tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir une justification aussi longue que le temps d'attente qu'on a eu pour ton drive-thru.
Le salaud. Donc, je voudrais vous faire partager deux drive-thru aussi, le drive-thru de Maël. Enfin, je dis le drive-thru. Moi, j'en manque, mais Maël, elle en a deux. Donc, pour les drive-thru, j'en ai deux. Un pour Brown Grand Prix, d'avoir laissé Barrichello en piste, alors qu'il avait un problème de moteur. Et le second pour Nelson Piquet Jr., pour avoir rapporté des faits qui s'étaient passés à Singapour, alors qu'il vient de se faire limoger de Renault, et qui pourrait avoir pour conséquence le retrait de l'écurie Renault F1 Team. Voilà.
Les deux, je suis pas d'accord, mais bon.
Les deux, t'es pas d'accord.
Bah non, ils ont eu raison de le laisser en piste, ils ont deux points, ils voudront peut-être
ouais, cher. C'est quand même, attention, c'est fuite d'huile, c'est quand même potentiellement dangereux. On a clairement fait entendre à l'occasion du Grand Prix.
Si c'est une grosse fuite d'huile, le moteur il tient pas longtemps, c'est qu'ils savaient que ça tiendrait quoi.
Et...
Moi ce que j'ai adoré, c'est le commentateur, je crois que c'est Malmanc, qui a dit, ah c'est peut-être un surplus.
Un surplus,
à la fin de la course.
Je crois que les mecs lui ont dit, mais non, voyons Christophe, c'est pas possible, un surplus en fin de course. Et puis pour Piqué, pourquoi tu n'es pas d'accord?
C'est pas lui, ouais. Visiblement.
Okay.
Il semblerait que ce soit pas lui.
Et donc, dernier drive-through, je voudrais vous faire écouter celui de Jérôme.
Alors pour ce Grand Prix de Belgique, je vais décerner un drive-through à Toyota, parce que je trouve qu'ils se sont vraiment démotivés. Comme
il
en
a piqué le mien.
Si on commence à se démotiver, c'est le début de la fin, quoi. D'accord, ils pouvaient gagner, d'accord, ils étaient très déçus, mais faut pas... C'est ça qui fait la différence entre les grandes équipes et les moins bonnes, je pense. C'est que les Ferrari au début des années 90 sont pas démotivés, ils ont pas dit... c'est caricatural, mais ils ont pas dit on va quitter la F1 comme ça. Voilà, et là, je trouve qu'ils se sont complètement démotivés sur la course, ils ont fait n'importe quoi. Donc non, voilà. Et à noter que pour une fois, je trouve que les trophées étaient pas mal. Voilà.
C'est pas mal. Donc je tiens quand même à me défendre.
Yannick, c'est pas bien de piquer les drive-thrus des éditeurs.
J'avais oublié que c'était ça son drive-thru.
Oh, le
non, je te jure, c'est vrai. J'avais oublié. Oh la vache, je passe pour un plagieur en plus, merde. C'est la journée des humiliations.
Joyeux anniversaire.
Merci.
C'est bientôt?
Non, c'est au mois d'avril. Non mais au cas où tu serais pas au courant, c'est l'anniversaire du SAV de la F1.
Ah oui, pardon.
Donc, avant-goût de, du Grand Prix de Hongrie, Mael et Iceman Air ont pronostiqué...
Du Grand Prix de Hongrie. Alors pour moi, la Hongrie, je pense que ce sera Hamilton qui va gagner.
Non, un aperçu. Non, parce que j'ai écrit Hongrie sur ma feuille et j'ai lu Hongrie, voilà. Ça, c'est la feuille de la Hongrie et donc j'ai lu Hongrie, voilà. Donc, avant-goût du Grand Prix d'Italie, à Monza. Maël et Iceman ont fait le même pronostic qui est...
Kimi,
et Matt. Donc, vos pronostics, vous, messieurs.
On peut dire deux choses.
Oui, c'est l'anniversaire, soyons fous. Dit.
Eh ben, moi, je veux dire... Physique est là s'il est chez Ferrari, sinon Vettel.
Physique est là ou Vettel, ok.
Kimi ou Vettel.
Eh ben moi, messieurs, je vais vous en lâcher une grosse bombe. Moi, je vois un duel. Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton. Voilà, circuit Kers, grande ligne droite. Pour moi, ils vont se fighter.
C'est
voilà.
Vrai.
Moi, je les sens comme ça.
La dernière fois qu'ils se sont fightés, ça s'est mal fini pour
oui,
Kimi.
Oui, voilà, hein. Mais peut-être ouais. Que là, ça se passera mal
justement,
pour
Lewis. Justement, revanche. Revanche.
Donc, messieurs, nous avons... Le concours top opposition.
Oui.
Du Grand Prix de Europe.
D'Europe.
Voilà. Oh, merci.
De Europe. De, oui.
Non, mais tant que je régurgite le mot Europe, voilà, c'est tant que je réfléchisse. Donc, le concours top opposition du Grand Prix d'Europe. Toujours les mêmes personnes ont répondu. La question était, Shinji?
Quel sport dont Enzo est un amateur devrait être présent aux Jeux Olympiques de 2016?
Voilà. Et on avait deux indices.
L'indice, je peux être de Gascogne ou TDI?
Et la réponse était, Shinji?
Eh bien, vous avez tous reconnu le Jokari.
Ah non. Pas le coup de Laurent Dupin. Denis Papin. Ouais, j'ai recherché le nom hier. Denis Papin.
Non, c'est bel et bien le golf.
Le golf.
Cette chose qui prétend être un sport.
Alors oui. Alors là, oui. Alors j'ai une réponse. Alors faut que j'aille la chercher parce que j'ai une réponse, la première.
Mais oui, c'est un sport, Enzo.
Alors, c'est la réponse de l'ami Stéphane, hein, l'ami d'Enzo, qui a dit « J'ai un doute quant à la réponse du jeu, car vous parlez d'un sport, et pour ce que je sache, Enzo pratique le golf. Considérerait-il le golf comme un sport ?» Dans le doute, je réponds donc le golf. Mais quand tu le définis en tant que sport, j'ai du mal. Et pourquoi pas le curling aux Jeux Olympiques d'hiver?
Mais ça l'est.
Mais c'est très intéressant, regardez le curling.
Et il précise,
le curling est au JO.
Il précise, tout fout le camp, mon bon monsieur, tout fout le camp.
Alors, c'est un éternel débat, le golf est-il un sport ou un jeu?
C'est un sport de voiture, déjà.
Alors, déjà, non, mais, déjà je vais vous faire une réponse. C'est tant qu'on n'y a pas joué, on ne se rend pas compte à quel point c'est un sport. Et puis, je poserai une autre question. Est-ce qu'on se pose la question sur le tir à l'arc?
C'est vrai. Alors ça, c'est un bon argument, la vache.
Non, et pour le curling, je répondrais qu'il n'y a rien de plus joli que de voir une pierre glisser sur la glace avec des balayeurs devant.
Ce qu'il faut quand même dire, c'est que Enzo est fan de golf, mais Shinji est un grand amateur de snooker et une fois tous les 4 ans, il est amateur de curling. Enfin, ça passe sur Eurosport quand même. Et donc, effectivement, il aime bien le curling aussi. Donc. Moi je vous rassure, c'est football américain, tennis.
Oui, des sports de tafia.
Alors là, je vais te présenter les léopards dormants, tu vas voir mon vieux. Donc, 4 personnes ont répondu au concours top opposition. Nous avons Maël, Kevin, Jérôme et Stéphane. On va procéder au tirage au sort. Donc je vais écrire les 4 prénoms sur une feuille. Donc voilà, j'ai écrit les 4 prénoms. Je vais écrire non pas un chiffre, mais un nom de pilote en dessous.
Hey. Oh là là.
Je vais faire nouveau comme ça. Hop, clac, un nom de pilote.
Ouais, mais c'est pas neutre.
Non, oui, mais je vais pas mettre des pilotes actuels. Alors, messieurs, vous avez le choix entre Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio, Emerson Fittipaldi et Wolfgang Van Trips.
Van Trips qui a eu un accident en Monza d'ailleurs.
Oui, bah tu vois.
Et je crois que c'est suite à ça que Mercedes s'est retiré de la F1. Eh ben, on va dire lui, tiens.
Enfin, Van Trips, alors dans ce cas-là, c'est Stéphane qui l'emporte,
son premier...
Oh merde.
son premier magnète.
Je plaisante, bien sûr.
Attends, plus, je crois qu'il est pourri le magnète de l'Europe. Ah bah oui, c'est le drapeau européen. Console-toi, Enzo. Donc effectivement, c'est Stéphane qui l'emporte, qui recevra donc son magnète d'ici peu. Je tiens à dire que j'ai envoyé les magnètes à temps, là, cette fois-ci. Hein. Donc, question top opposition du Grand Prix de Belgique. La question du concours top opposition vous est présentée par Enzo de chez EnzoF1.com.
Bonjour à tous, vous venez d'écouter le SAV de la F1 spécial Grand Prix de Belgique à Spa. Répondez maintenant à la question qui vous est posée afin de gagner un magnifique magnète. Quel ancien vainqueur de Spa était absent cette année? Envoyez vos réponses par le formulaire contact du site du SAV de la F1, sav.f.
Ah, je crois que je vais l'enregistrer, ça.
Donc je te disais. Donc.
Non mais est-ce que tu veux que je l'enregistre moi, que je la rajoute dans l'émission ou
pourquoi ça te plaît pas comme je le fais? Non, je le fais pas bien peut-être.
On peut la garder comme ça.
Non mais tu trouves que je le fais pas bien?
Non non.
Excuse-moi, j'ai pas fait d'école speakerine non plus.
Non mais je te dis ça parce que voilà, t'es peut-être fatigué, t'avais pas l'air parti pour le faire donc.
Non, non, mais tu trouves que je l'ai mal fait, quoi.
T'as pas repris ta voix du top opposition. Ça se voit que tu l'as pas fait la dernière fois, t'es pas dans le rythme. Ça fait 5 semaines.
Non, non, mais ça fait déjà une fois que tu me piques mon job, là, et puis là, tu vas me le repiquer. Non, non, mais c'est vrai, quoi. Dis-le si tu veux plus que je fasse l'émission. C'était le seul truc, c'était ma rubrique. Déjà, tu me la piques la dernière fois. Non, ça va plus. Il y en a marre à la fin.
Quoi. Oh, le mauvaise foi.
Non, mais je plaisante pas, Yannick. Il y en a marre. T'abuses, quoi. C'est un peu de l'abus, quoi. Oh, mais toi, ça te fait rire. C'est bien, non?
Non, mais fais-le, vas-y, fais-le.
Non, je fais pas bien.
Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est, je ne t'ai pas senti.
Non, mais c'est bien si ça vous fait rire.
Mais non, mais c'est, je ne t'ai pas senti, je t'ai senti étonné que tu doives le faire.
Ah, tu m'en as pas parlé avant, c'est pour ça, moi je croyais que ça y est, j'étais déjà exclu.
Mais non! Donc, Enzo, tu veux bien le faire, s'il te plaît? Avec ta
Je vais essayer. Non, mais c'est pas facile, c'est un entraînement mental avant. C'est...
Pitié, déjà une heure du mat.
Non, mais c'est un vrai sport de faire la question de la question de ta proposition. Quoi. Mentalement, ça demande une concentration. C'est comme quand j'arrive sur le tee numéro 1. Il faut que mentalement, je me sois préparé, quoi.
Mais c'est
bon, allez.
Mais est-ce que t'as une voiture pour faire le?
Ah non. Hein? Ah non, c'est pour les vieux, ça.
Ouais, toi, t'es un puriste, toi. Tu fais ça à pied.
J'ai 25 ans, attends.
Non, mais t'es un puriste, tu fais le concours top opposition à pied.
Aussi.
Voilà, tu préfères.
Balle neuve.
Mais voilà, tu préfères le faire avec un pull ou sans pull?
Non, non, là je suis...
Tout nu?
Non, j'ai un short.
Ah, alors s'il te plaît, si tu le fais tout nu, tu te sors les doigts du cul. Tout ce que je te demande. Non mais là je te pose des questions exprès pour pouvoir faire après un montage bien salace et tout.
Oui, je me doute.
Non vas-y.
T'inquiète, t'auras ta surprise. Bonjour à tous, vous venez d'écouter le...
Mais non. Ah non, pitié. Non, j'ai rien dit, j'ai rien fait.
Bonjour à tous, vous venez d'écouter le SAV de la F1 spécial Grand Prix de Belgique qui a eu lieu à Spa. Répondez maintenant à la question qui vous est posée afin de gagner un magnifique magnète du SAV de la F1. Quel ancien vainqueur du Grand Prix de Belgique était le grand absent de cette édition? Envoyez vos réponses en utilisant le formulaire contact...
Oh non!
Attends, je coupe le micro.
Envoyez vos réponses en utilisant le formulaire contact du SAV de la F1.
On renoue avec les grandes éditions du concours top opposition.
Ouais.
Allez.
Envoyez vos réponses en vous connectant au formulaire... Mais non, pas du tout. Envoyez vos réponses en utilisant le formulaire contact du SAV de la F1. Je vous rappelle le site www.savf1. Oh, mais...
Je vous rappelle le site. Non, mais on peut le faire en trois parties. Non, on peut le faire en trois parties.
T'inquiète.
Non, mais si tu veux, tu fais le début, Shinji fait le milieu et moi je fais la fin.
Non.
Quoi, ça, c'est
mon boulot.
C'est...
Merde,
non, mais comme ça fait édition anniversaire.
Non. On chantera Happy Birthday to You, alors ensemble. Envoyez vos réponses en utilisant le formulaire contact du site www.savf1. Non, je vous en...
Il y a trois W. Vivement qu'on aille sur enzof1.com. Hein.
Je vous entends rire derrière. Quoi.
C'est lui. Hein.
Oh, salaud. Comment il dénonce. J'aurais pas bien vu vivre avec toi sous la collab.
Envoyez vos réponses en utilisant le formulaire contact du site du SAV www.savf1.fr.nf. A bientôt pour le Grand Prix d'Italie.
Bravo!
Ah voilà!
Il y a du montage, mais bravo!
Ouais!
Attends, stop!
Oui?
À bientôt et je vous retrouve pour le SAV. Non, attends. À bientôt et je vous retrouve pour le concours top position du Grand Prix d'Italie.
Top pas position.
J'ai dit quoi?
J'ai dit top position.
Top position! Tu dis juste pour le Grand Prix d'Italie?
À bientôt et je vous retrouve très rapidement pour le Grand Prix d'Italie.
Voilà, c'est tout.
Claire, sobre, rapide.
Moi, je sais pas, je t'aimais bien la première version. donc voilà, on espère que cette émission anniversaire vous a plu. Voilà, on vous remercie de votre contribution, de votre participation à tous. On remercie aussi ceux qui n'ont pas pu participer de nous écouter, de faire parler de nous, de continuer à être attentifs à ce qu'on fait. On vous invite bien évidemment à aller visiter les sites F1 Central parce que certains d'entre nous y ont des intérêts, à visiter le site enzof1.com. à visiter bien sûr le site du SAV Life 1 et puis bien sûr le site le blog inutile de Shinji.
Ouf. Faut que je mette
qui en ce moment est un ouais t'es, il est un petit peu en sommeil en ce moment.
Ouais, Shinji. J'ai pas trop le temps et puis bon, je préfère faire des choses pour le SAV plutôt que voilà.
Oh, c'est gentil. Oh, c'est magnifique.
Voilà. Yannick, t'as dû recevoir un mail.
Oui.
J'espère que tu m'en voudras pas.
Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Salaud. J'en étais sûr.
Des doigts dans le cul.
Je reçois un mail de Jimmy D. God. J'espère que l'enregistrement s'est bien placé. Enzo, oups, je me suis trahi. Donc on s'est fait chier à avoir des réponses d'Enzo, à faire des commentaires. Oh non. On s'est fait trahir, il y a tricherie. Moi je demande enquête de la FIA. Je veux une enquête de la FIA.
Ah, j'avoue, je voulais faire un enregistrement, mais j'ai pas eu le temps.
Bah merci Jimmy. Tu as fait du live avec nous. Donc bah voilà. Donc merci aussi à vous deux. Je le dis souvent à la fin de la mission, mais voilà. Sans vous, sans votre engagement et votre soutien, cette émission aurait peut-être pas été aussi loin. Voilà, on m'a dit dans le début que j'avais du courage d'avoir lancé l'émission et l'avoir maintenu, mais vous avez eu de l'audace en me faisant confiance quand je vous ai invité à y participer, à vous y investir et à en faire aujourd'hui ce qu'elle est devenue. À savoir, je pense, un bon podcast rigolo et assez sérieux.
Bah, merci à toi pour vraiment tout le boulot que tu fais, hein, notamment oui, le montage. Et puis, bah, c'est toi à l'origine, hein, de cette émission. Donc,
Oui, c'est vrai d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc, je retire tout ce que j'ai dit. Je reviens sur mes mots. Donc voilà. J'ai juste oublié de dire, on vous en reparlera sur le site. Donc vous irez sur le site, on vous en reparlera. On va vous proposer de pronostiquer après la saison 2010. On va vous proposer de pronostiquer le classement final du championnat de Formule 1 avec en cadeau un DVD collector, enfin une édition collector du film Grand Prix.
Voilà, donc on vous donnera plus de détails sur le site dans la semaine.
Tu fais des bouquins ou toi.
Ah ouais, s'il y a un film sur la F1, regardez.
Ah ouais, ouais. Donc voilà, et puis même si vous avez déjà le film chez vous, bah vous jouez quand même, on vous enverra le DVD, puis vous l'offrirez à quelqu'un qui ne l'a pas, parce que c'est un film qui mérite vraiment franchement le coup d'être partagé.
On me l'a offert à Noël quand il est sorti il y a un an et demi.
Ouais.
Je l'ai acheté. J'ai toujours pas regardé.
Oh la vache, non,
je te jure.
Tu te jettes dessus.
Alors moi c'est pas difficile, c'est un film, dès que je change d'écran de télévision, je le mets. À chaque fois je me prends une claque. Là j'ai pris un écran plat tout machin.
Cette image du début avec la sortie des chapons avec juste le titre Grand Prix.
Ah ouais, non mais donc voilà, on vous donnera les détails sur le site, hein, ce sera juste pronostiquer le classement final et puis on verra comment ça s'organise. Je remercie aussi Iceman Air, je remercie aussi Jérôme, je remercie aussi Stéphane alias TNT, je remercie Maël et je remercie Jimmy Digad. C'est quoi cette adresse d'ailleurs, 1379. En plus, c'est ça qui m'a trompé. J'ai regardé 79. Bah oui. En plus, même sur l'adresse, il m'a trompé.
Bien sûr.
Il a mis 79, le cochon. Et moi, depuis le début, il me laisse citer Jimmy. Je vais réécouter l'émission et je vais y repenser. Donc voilà.
Et pourtant, je te le mets des traces. Hein. Je dis, oh, maintenant, tu vas croire que c'est Enzo qui m'a payé.
Non mais le problème c'est que maintenant je vais croire que TNT, que tout le monde sait. Donc voilà, donc on...
Ah, c'est peut-être pas le seul.
Oh là.
Non. Non, arrête. Non.
Pitié.
Non, arrête. Oh, tu me fais peur là. Alors s'il vous plaît, non mais si je demande aux auditeurs, il va m'envoyer un message pour me dire non, moi ça va, je suis un vrai. Donc... En plus, des fois, je discute avec nos auditeurs par mail, etc. Un salaud. Oh non, arrête, c'est qui? Arrête. Oh non, la vache. C'est pas difficile, toutes les adresses en mail, je vais avoir des doutes.
Et tu sais quoi? Je pensais que t'allais vérifier avec l'adresse IP du contact, du formulaire contact. Et ben t'allais voir que c'était moi. Donc je m'étais même démerdé pour que normalement ce soit pas la bonne. La même.
Mais moi, j'ai pas les adresses IP, puis je suis pas pervers comme ça, moi. Donc, on vous donne rendez-vous dans une quinzaine, même pas dans 15 jours, on vous donnera rendez-vous.
Si on n'a pas deux qui ont la même adresse.
donc voilà, on vous donne rendez-vous dans 3 semaines, enfin ou dans 2 semaines, on verra comment on enregistrera l'émission, puisque Enzo risque de ne pas être là. Voilà, bonne mini trêve de 15 jours et puis à bientôt. Salut.
Salut à tous.
Salut à tous et bonne rentrée.
Oui.
Et pour moi, bonnes vacances.
Service après-vente de la F1.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.